Bonsoir à tous. Pour la dernière table ronde de la programmation associée à l'exposition Riyad Satouf. Pour mémoire, vous avez encore 3 semaines pour voir donc Riyad Satouf, l'écriture dessinée, qui se terminera le 11 mars. C'est en entrée libre par la bibliothèque, voilà, tous les jours jusqu'à 22h, sauf le mardi. Et là, pour ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir donc nos 4 intervenantes ce soir et surtout de remercier très chaleureusement Amélie Mouget, qui est la rédactrice en chef de la revue dessinée, qui a accepté de modérer la table ronde de ce soir et qui va vous présenter tous les intervenants. Merci à tous.
Bonsoir à tous. Alors, puis merci d'être venus pour écouter cette intervention, cette table ronde autour de la bande dessinée Témoin de son temps. La bande dessinée, depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies déjà, s'empare, raconte le réel. Les auteurs de bande dessinée sortent de leurs ateliers et vont sur le terrain, comme les journalistes et les sociologues disent. On a avec nous ce soir pour parler de ce sujet un auteur et une autrice de bande dessinée et un journaliste. Alors je commence les présentations dans l'ordre. Étienne Davodeau, qui est auteur de bande dessinée, qui a signé beaucoup de bandes dessinées du réel, de bandes dessinées documentaires. La première, c'était Rural en 2002. Rural, c'est l'histoire d'une autoroute qui doit être construite à la campagne et d'agriculteurs qui rêvent d'une autre. Une autre forme d'agriculture et qui ne sont pas tout à fait favorables à ce projet. Donc c'est un reportage du terrain, du documentaire déjà. Et puis après, il y a eu beaucoup d'autres bandes dessinées du réel. Les mauvais gens sur le syndicalisme dans les Mauges. Et ensuite, alors c'est peut-être pas dans l'ordre et j'en oublie, il y a Les Ignorants, il y a En cher pays de notre enfance, que vous avez écrit tous les deux avec Benoît Colomba, qui est journaliste et grand reporter à France Inter, à la cellule d'investigation de Radio France, et qui en est à sa deuxième bande dessinée d'enquête avec Sarkozy, Kadhafi, Des billets et des bombes, qui est réalisé avec 4 autres journalistes et Thierry Chavant comme dessinateur. Donc c'est le lien entre vous deux, c'est Cher pays de notre enfance, sur les années de plomb de la Ve République. Et à ma gauche, Lisa Mandel, qui est donc autrice de bande dessinée, dessinatrice, qui est directrice de collection aussi, la collection Sociorama chez Casterman, où là, le principe est un petit peu différent. Il s'agit de marier, d'associer, non pas un journaliste et auteur de bande dessinée, mais sociologue et auteur de bande dessinée. On reste dans le cadre la bande dessinée Témoin de son temps, c'est juste une autre profession qui rencontre et qui utilise ce langage qu'est la bande dessinée pour parler du monde, notamment parmi les bandes dessinées que vous avez réalisées. Il y a la jungle de Calais qui a été réalisée avec Yasmine Boiga en 2017, et puis La Fabrique pornographique, et la plus récente, c'est Un automne à Beyrouth, qui vient de sortir, où on en apprend beaucoup plus sur ce pays complexe qu'est le Liban. Tout le monde dit le Liban est un pays complexe pendant les premières pages de cette bande dessinée. Alors la bande dessinée, pour raconter le monde, pour raconter des histoires qui ne sont pas inventées. Aujourd'hui, ça paraît presque naturel. Il y a des expos Riyad Satouf, il y en a plein des librairies, plein des bibliothèques. En 2002, quand Rural est sorti, comment ça a été accueilli? Est-ce que c'était un ovni ou c'était tout naturel?
Bonsoir. Quand j'ai proposé le principe de Rural à différents éditeurs, c'était avant de le dessiner, donc peut-être en 1999 ou en 2000, je ne sais plus. J'ai eu une belle série de refus, puisque ce genre de livre ne leur apparaissait pas comme ni nécessaire ni évident. Je me souviens d'un éditeur qui m'avait dit du noir et blanc, des vaches, un chantier d'autoroute, c'est pas hyper sexy. Je confirme, c'est pas hyper sexy. C'était pas le but. Enfin, le but de ce livre n'était pas d'être sexy, mais il me semblait moi que qu'il y avait là une histoire à raconter, qui faisait sens, qui charriait des notions, des thèmes qui étaient d'actualité. Et il m'a fallu un peu de temps pour faire ce livre. Je me souviens même que je l'ai commencé sans éditeur. Je l'ai commencé grâce à une bourse du Centre National du Livre qui m'a permis pendant quelques mois de travailler sur ce livre. Je me souviens que j'allais voir des gens que je voulais faire témoigner dans ce livre et à qui j'ai essayé d'expliquer ce que ça allait être, moi-même ne sachant pas trop. Et ils me demandaient chez qui ça va être édité. J'ai dit, j'ai pas d'éditeur. Enfin, ça faisait pas très sérieux, quoi, très franchement. Et ce n'est qu'au bout de 6 mois qu'un des éditeurs que je harcelais avec ce projet a cédé. C'était les éditions Delcourt, donc. Et donc, pour tout ça pour dire que ça allait pas de soi, probablement. Je prétends pas être du tout le premier dans cette veine-là, hein. Mais il y en avait très peu. Il y en avait très peu. Moi, j'en avais lu quelques-uns. Celui qui m'avait vraiment servi de déclencheur, c'était même avant sa traduction en français, c'était les livres de Joe Sacco sur la Palestine, la bande de Gaza. Et je me suis dit, waouh, si on peut faire ça en bande dessinée, je veux le faire. Voilà. Et après, évidemment, tout reste à faire. Mais c'était un domaine encore où les choses n'allaient pas de soi, je crois.
Alors, Joe Sacco, c'est un cas particulier dans la bande dessinée de reportage, parce qu'il est à la fois journaliste, il a une formation de journaliste, et il est reporter. Et il part en Palestine pendant plusieurs semaines. Et puis, pendant que ses collègues journalistes récoltent de l'information qui va être publiée le lendemain, lui noircit des carnets de notes qui, pour donner naissance à des bandes dessinées des mois plus tard.
C'est une... Oui, bien sûr, ça sera sans doute un des points qu'on va aborder. C'est que nous, on travaille dans une temporalité qui n'est pas celle de la presse où une information est recueillie et publiée le lendemain ou quelques jours après ou dans l'instant pour la radio. Nous, on travaille sur du long terme souvent. Et Joe Sacco est l'exemple de ça. Il travaille par immersion. Il va sur place. Il y passe des semaines, des mois. Et à ces semaines et mois s'ajoutent les semaines et mois de travail, de réalisation, parce que la bande dessinée est un travail long et lent. Et c'est pour ça que moi, je me sens pas très concerné par l'actualité chaude. C'est pas du tout mon sujet. Je peux pas. Ça, c'est le royaume des dessinateurs de presse qui... constate un fait, l'illustre et le publie. Et ce sont les sprinteurs, nous on est les marathoniens.
Avant de revenir sur la temporalité, peut-être sur les raisons de cette surprise ou du moins du côté dubitatif des interlocuteurs quand on leur présentait une bande dessinée documentaire, une bande dessinée de reportage. Est-ce que c'est parce qu'on voyait la bande dessinée comme quelque chose, un langage pas sérieux finalement, quelque chose plutôt pour les enfants ou plutôt pour faire de l'humour, et en même temps c'est pas incompatible, l'humour et parler du réel. Comment vous expliquez, peut-être Lisa, si ça a mis du temps à s'installer ou si au début, peut-être que tu ne l'as pas vécu, peut-être que directement tes albums de reportage ou de terrain ont été bien accueillis parce que le genre était déjà installé.
Oui, moi j'ai fait un peu tout j'ai fait tout au bon moment, c'est-à-dire j'ai commencé à tenir un blog quand c'était la mode des blogs. Ensuite, en fait, quand on fait un blog, on est déjà un petit peu, bon, c'est plus auto-centré, mais on est déjà un petit peu dans le reportage parce que mon blog, je l'avais fait autour d'un voyage en Argentine que je voulais faire et je voulais un peu garder des traces de ce voyage parce que d'habitude, j'avais tendance à partir en voyage et en fait à rien faire et je donnais pas assez de nouvelles à ma famille et tout ça, donc je l'ai fait un peu comme ça. Et après, tout naturellement, en fait, la BD, ce blog-là a dérivé pour arriver à de la BD plus documentaire. Mais de la même manière qu'Étienne, moi, j'ai pas l'impression d'avoir... Enfin, je me suis retrouvée, en fait, quand c'est devenu à la mode, à être à fond dedans parce que ça me plaisait. Mais moi, au début, c'est parti du témoignage de mes parents qui avaient travaillé en hôpital psychiatrique. Ça, c'était plutôt... j'ai fait ça à la fin des années 2000. Et c'était juste avant que ça devienne vraiment la... Mais c'est vrai que moi, j'ai pas rencontré comme Étienne des refus. Moi, tout de suite, en fait, les gens, il y avait une appétence, il y avait une envie de faire du reportage en BD. Et moi, je suis arrivée là-dedans et c'était exactement le moment où les éditeurs en avaient envie. Donc, je me rappelle que la série, par exemple, de Sociorama, c'était entre la poire et le fromage à Angoulême, dans la salle de restaurant où il y avait Casterman, où j'ai vu Benoît Mouchard, qui était alors, qui venait à peine, je pense, de rentrer chez Casterman, parce qu'avant, il était directeur artistique d'Angoulême, et à qui j'ai dit, ah, j'ai un projet, j'ai un projet, je suis dans la socio, tu vois, je mélange avec des auteurs de BD, il me fait, mais génial, on signe. Puis on se serre la main, puis c'était fait, quoi. Donc ça a été vraiment. Et je me rappelle que pareil avec HP, j'en ai parlé avec Jean-Christophe Menu à l'époque, dans l'avion pour un festival, et on en parle, et il me dit, ah, bah, d'accord. Enfin, tout s'est fait comme ça, en fait. Je suis arrivée au moment où le fruit était mûr, hein, il fallait juste le. Et je pense que toi, t'as vraiment fait tout le travail avec d'autres, mais. De débroussaillage et de prouver que aussi on pouvait vendre, parce que avant tout c'est quand même du commerce, hein, donc si on peut aussi intéresser le public et vendre des bandes dessinées en parlant de sujets sérieux. Et
je crois justement c'est ça qui a aussi facilité la chose. Le démarrage a été un peu long à venir, mais après ça s'est enclenché assez vite. Et une des raisons de cette accélération, c'est que les éditeurs se sont rendus compte que grâce à ces livres-là, on touchait des gens qui lisent de la bande dessinée, puis aussi on touche des gens qui sont intéressés par le sujet, malgré le fait que c'est de la bande dessinée, qui achètent ce livre-là et qui le lisent, et qui se disent « Ah bon, on peut faire ça en bande dessinée », et qui du coup deviennent un nouveau public. Et d'un point de vue éditorial, certains de ces livres-là ne se sont pas trop cassés la gueule, et ça a facilité l'ouverture de ce champ. C'est-à-dire que pour les éditeurs, c'était aussi un endroit où on pouvait vendre des livres de bande dessinée à des gens qui n'en lisaient jamais, je crois.
Benoît Colomba, vous faisiez partie de quelle catégorie ? De ceux qui ne lisaient jamais de bande dessinée et qui se sont dit « Ah tiens, on peut faire ça en bande dessinée » ou de ceux qui étaient déjà férus de bande dessinée et qui ont trouvé le mariage intelligent et naturel
Je faisais partie de la catégorie de ceux qui lisaient des bandes dessinées et qui, comme reporter, noircissaient leur carnet aussi pendant mes reportages. Moi, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et comme le disait Étienne, c'est vrai que quand vous couvrez, pour la radio, ce qu'on appelle l'actualité chaude, il se passe quelque chose, hop, tel un pompier volant, on vous envoie, que ça soit en France ou à l'autre bout du monde. Vous couvrez les événements, mais il y a toujours une frustration. Vous êtes là, vous noircissez vos carnets, de raconter plus. On est sur des formats qui sont quand même assez courts, assez contraints en radio. Alors, il se trouve qu'à Radio France, moi, ça fait presque 25 ans que je travaille à Radio France, on a quand même la chance, au-delà des flash infos, des journaux, d'avoir des émissions où on peut quand même en longueur creuser des sujets. Donc, je ne m'en suis pas privé. Mais c'est vrai que voilà, on se dit toujours, on a envie d'aller plus loin, et c'est vrai que la bande dessinée, ça permet de raconter les coulisses aussi de ce qui se passe sur le terrain. La réalité, elle est toujours plus complexe qu'un papier de 50 secondes que vous allez faire sur France Info. Donc voilà, c'est vrai que pour ça, sans mauvais jeu de mots, la bande dessinée, c'est une bulle d'oxygène, en fait, pour les journalistes. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça. C'est-à-dire que vous éclatez déjà les formats et vous pouvez essayer de rentrer dans le détail de la complexité des choses et puis aussi d'assumer une certaine subjectivité, qui est un peu le tabou intégral dans le journalisme, ce qui ne vous exonère absolument pas du tout de respecter évidemment les règles du journalisme, vérifier les faits, être honnête intellectuellement, bien évidemment. Mais c'est vrai que la puissance de la bande dessinée, enfin l'alliage entre la bande dessinée et le journalisme, c'est d'assumer aussi cette part de subjectivité qui souvent est beaucoup plus honnête qu'une prétendue objectivité qui est avancée par certains journalistes.
Donc ça ne vous a pas paru incongru le jour où on a émis la possibilité de faire...
Non, pas du tout. Alors il se trouve que c'est sur le premier projet, c'était donc avec Étienne sur Cher pays de notre enfance, c'était l'idée de partir quand même sur un sujet que moi je connaissais un peu, à savoir la violence politique en France dans les années 60-70. Mais l'idée c'était justement de revisiter tout ça. Moi ça ne m'intéressait pas, c'est la première chose que j'ai dit à Étienne, m'intéressait pas de refaire la même chose que ce que moi j'avais pu faire en radio ou en livre, parce qu'il se trouve que j'avais écrit aussi des bouquins, mais c'est une narration qui est complètement différente. Donc essayer de revisiter toute cette histoire à travers la bande dessinée, ben moi j'ai trouvé ça passionnant.
Et donc on vous voit en scène, vous mettez en scène en train d'enquêter, en train d'interviewer, en train d'éplucher les archives. C'est important pour vous de vous représenter dans cette...
Surtout important pour Étienne.
C'est vrai, je ne sais pas faire autrement. Ces livres-là, moi je les fais C'est pas que j'aime particulièrement me dessiner, au contraire, c'est quelque chose qui me rebute un peu, mais des livres d'enquête, de reportage comme ça, je me dis que le gars qui dessine doit entrer dans le champ. Et en l'occurrence, sur un livre comme « Cher pays de notre enfance », nous étions deux auteurs, donc j'ai dit à Benoît, ben voilà, terminé de se cacher derrière un micro, il faut que tu rentres dans le champ et qu'on soit nous-mêmes les personnages de notre propre livre. Je me souviens que tu avais un peu hésité, puis que finalement tu avais trouvé que ça générait aussi des choses positives. Et il me semble que Benoît parlait de la subjectivité assumée. C'est une façon de brandir en permanence notre subjectivité, de dire au lecteur, ce que vous êtes en train de lire, c'est pas une vérité objective sur un fait, c'est l'histoire de deux mecs qui font une enquête sur la violence politique de la Ve République, qui vont voir des gens pour les faire témoigner, des anciens flics, des anciens voyous, des anciens magistrats, qui se heurtent à des échecs. Je nous dessine, essayant par exemple d'interviewer Charles Pasqua pendant des plombes, et Charles Pasqua se défile, et il a même la bonne idée de mourir au moment où on dessine les dernières pages du livre, au moment où on lui dit « c'est le moment ou jamais de témoigner ». Enfin, la bonne idée, je veux dire, narrativement, c'était une bonne idée, parce que ça montre que c'est ce que lui pouvait savoir, ben, on ne le saura pas. Mais notre échec à essayer d'interviewer Charles Pasqua fait sens. Et on peut le mettre en scène, on peut le montrer. C'est quelque chose qu'un autre média peut-être ne ferait pas, un autre média ne montrerait peut-être pas ses échecs. Mais si les échecs s'intègrent dans le récit qu'on est en train de faire, si les hésitations s'intègrent, à mon avis, elles valent le coup d'être racontées. Et se mettre en scène permet ça.
Et cette planche, je trouve qu'elle est justement assez révélatrice de ce qu'on peut faire en bande dessinée. On peut se dire comme ça, en la voyant, que ça paye pas de mine, des bulles comme ça qui se télescopent dans une bibliothèque. Mais pour moi, c'est tout ce que permet la bande dessinée. C'est-à-dire qu'en fait, derrière cette, entre guillemets, simple planche, il y a des heures et des jours à fouiller dans les archives, à dépioter des bouts de papier jauni, à découvrir des trucs hallucinant. Donc là, pour contextualiser, il s'agit d'une commission d'enquête parlementaire qui s'est tenue au début des années 80 sur les agissements du SAC, le service d'action civique, un service d'ordre du parti gaulliste qui a violemment dégénéré et qui est devenu quasiment mafieux, qui a été gangréné par des éléments mafieux dans les années 60 et 70. Et donc, à la suite d'un massacre, toute une famille décimée au début des années 80, la gauche arrive au pouvoir et il y a une commission d'enquête qui est lancée et qui aboutira à la dissolution de ce mouvement. Et donc, on se replonge dans tous ces papiers, mais qui sont des morceaux d'histoire, finalement. Et puis, on a accès à des dialogues qui parfois sont des dialogues de sourds, entre des parlementaires qui veulent essayer de comprendre ce qui s'est passé, et puis des personnes qui sont là, qui n'ont pas du tout envie de lâcher le morceau, de raconter, de se justifier. Mais ça donnait lieu à des dialogues absolument savoureux. Donc moi, j'étais là, je disais à Étienne, il faut absolument qu'on raconte tout ça. Étienne me disait, mais non, quand même, il faut que ça soit une histoire et qu'on réussisse à synthétiser tout ça. Et du coup, ça donne ça. Ça donne cette espèce de télescopage de bulles au-dessus de nos têtes qui résume tout ce qui s'est passé.
Et on ressent le côté jubilatoire du moment où vous êtes sidéré archive après archive de ce que vous découvrez et du côté complètement incongru des lignes de défense des uns et des autres qui prennent soin de prendre leur distance avec le SAC de manière assez imaginative.
Ouais, c'est les archives de l'Assemblée nationale où sont conservées toutes les minutes de cette enquête, enfin de cette commission d'enquête parlementaire. C'est un endroit assez calme, et je crois que c'est pas souvent. Il y avait deux types à une table qui disaient oh, regarde ça, et on riait parce que ce sont simplement des dialogues. Hein. C'est vraiment sous forme de dialogue, et pour un auteur de bande dessinée, c'était une espèce de pépite. C'est des dialogues où la mauvaise foi règne en maître, où un ancien flic dit qu'il se souvient pas. On sent bien que ce sont des gens qui détenaient le pouvoir jadis, qui sont face à des gens qui détiennent le pouvoir de façon récente et auxquels ils accordent une légitimité très très relative. Et donc, ils ont une espèce de morgue, une espèce d'assurance, d'ironie devant ces jeunes députés pas encore vraiment habitués à leur tâche. Et c'est des séquences de dialogue qui attendent d'être cueillies pour être posées dans un livre de bande dessinée. Rien qu'avec ces archives-là, on pouvait faire un livre.
C'est-à-dire, à défaut de faire parler certains témoins, on fait parler du papier. Voilà, la bande dessinée permet ça.
Et vous invitez même le lecteur à, comme vous n'avez pas pu tout mettre, à aller lui-même plonger dans ses archives pour prendre la mesure et la saveur de ces dialogues. Se mettre en scène dans les bandes dessinées, devenir un personnage d'histoire réelle, c'est aussi une approche qui est la vôtre, c'est important.
Ben, en fait, c'est exactement pour la même raison qu'avec Yasmine Boaga, on a choisi, en tout cas dans la jungle de, dans les nouvelles de la jungle de Calais, de se mettre en scène. Parce qu'on avait un regard aussi complètement candide, complètement neuf. Candide, je dirais pas ça, mais neuf en tout cas. Et donc on s'est pris la jungle de Calais en pleine tête. Et cette réaction-là, qui a été une réaction vraiment épidermique et qui nous a un peu bouleversés, on a eu envie d'en parler dans notre livre, tout en essayant de garder une honnêteté narrative, c'est-à-dire qu'on a fait un vrai travail de terrain et d'enquête avec une méthodologie de sociologue amenée par Yasmine. Mais effectivement, je pense que le fait de pouvoir raconter son ressenti, c'est quelque chose qui est un peu qui est un peu compliqué pour les journalistes et que nous, on a pu se permettre de faire parce qu'on n'avait pas un statut clair. Et c'est vrai qu'arriver dans un lieu comme la jungle de Calais en disant on est des autrices, on fait de la BD, c'était pas du tout pareil qu'arriver en tant que journaliste. Du coup, les portes s'ouvraient beaucoup plus facilement, les gens se livraient beaucoup plus facilement. Il y avait une sympathie avec laquelle on a joué, du fait que justement, c'est quand même des petits Mickey. Et c'est vrai que la BD, en fait, pour moi, la chance qu'on a dans la BD, c'est qu'on a été tellement mal considéré pendant des années que c'est un espace de créativité et de liberté extraordinaire. Et qu'on vient pas, il n'y a pas des espèces de règles, des espèces de normes qui, en fait, parfois peuvent étouffer d'autres médias. Nous, on a cette chance de pouvoir voir ce qu'on veut. Pour vous donner un exemple qui n'a rien à voir, mais par exemple, en jeunesse, moi, quand j'ai commencé à BD, j'ai fait de la jeunesse, en jeunesse, on pouvait raconter ce qu'on voulait en bande dessinée jeunesse. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour la télévision, où là, en jeunesse, il y a un comité de censure énorme. En BD, on pouvait le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un peu genre, ouais, bon, c'est de la BD. Du coup, et c'est la même chose, on peut faire du journalisme hyper sérieux en BD, mais comme les gens ne font jamais considérer ça à 100% comme du journalisme, on a une liberté énorme. Et aussi, c'est la BD d'investigation, c'est un documentaire à peu de frais. C'est-à-dire qu'au lieu, là où, si on voulait faire la même chose, on devrait dépenser des milliers d'euros, un temps fou, avoir une équipe, tout un process hyper lourd. Avec la BD, il suffit d'avoir un dessinateur et un journaliste ou un sociologue, et un expert, ou même parfois le dessinateur est tout seul, comme Josako, à toutes les casquettes, et on fait une BD. Et la BD, alors, contrairement à toi, Étienne, moi, j'ai fait, avec la jungle de Calais, une BD qui était dessinée le lundi, publiée le mardi. Enfin, l'enquête a... Mais au fur et à... Comme on y restait, par contre, on a fait un mix, on y restait 6 mois. Et donc, en 6 mois, notre enquête s'est étoffée. Elle est devenue de plus en plus creusée. Et à la fin, on a pu rajouter, à la fin quand le livre était fini, on a pu rajouter tout un avant-propos très long. On a contextualisé. Voilà, après, ça et là, arrangé un peu le truc. Mais on s'est permis, en plus, de faire du journalisme de... Et pour autant, on n'était pas dans cette espèce de journalisme frustrant où les gens sont envoyés pour 2 heures. Ils passent. Moi, je les ai vus à Calais. D'ailleurs, on a fait un livre dans Sociorama sur le journalisme comme ça. C'est-à-dire, on a vu arriver des journalistes. On leur avait dit, tu vas à Calais, tu filmes une cabane qui brûle et tu reviens. Donc le gars, il était toute la journée dans la jungle avec son casque de combat, parce que c'était ça, à attendre qu'une cabane brûle. Il se passait rien. Et au bout d'un moment, une cabane brûlait. Il filmait, il partait. Et ensuite, on avait le soir les infos Calais à feu et à sang. Enfin, et on l'a vu, on s'est dit, mais c'est incroyable comment on pousse les journalistes aussi à faire à faire parfois du mauvais travail et où ils n'ont pas le choix. Et nous, on a on a un peu ce luxe-là de prendre le temps et de raconter les choses. De prendre le temps pour raconter les choses de la manière dont on a envie qu'elles soient racontées.
Ouais, nos deux luxes, c'est ça, c'est le temps. On est obligé de passer beaucoup de temps.
C'est le seul luxe qu'on a.
C'est le seul luxe qu'on a. Et non, le deuxième, c'est que la bande dessinée, c'est un endroit où il y a très peu d'argent. Et ça rend libre, en fait. C'est assez paradoxal, mais on peut faire un livre de bande dessinée, comme tu le dis, avec une ou deux personnes bien décidées, un papier, un crayon. Enfin, on n'a pas besoin d'un producteur qui va mettre des millions d'euros sur la table et qui aura le pouvoir. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui va être sur notre épaule. Il faut un éditeur, évidemment, mais un éditeur, c'est pas quelque chose de très envahissant. Et cette liberté que procure la bande dessinée, elle tient à ces deux choses-là, je crois. Et c'est vrai que le temps, c'est important. Quand tu vas quelque part pour raconter et que tu as une journée, tu y vas avec une idée préconçue. Tu vas chercher quelque chose et t'espères le trouver pour le ramener. Donc, en partant, tu as déjà la chose en tête. Quand tu passes un an dans une ferme ou 6 mois à Calais, tu regardes les choses qui se passent, ou comme le fait Sako, il traîne dans la bande de Gaza, il s'immerge, il devient un habitué des lieux, et puis là, on récupère des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer venir les chercher, parce qu'on ne savait pas qu'elles existaient. Et donc, le temps permet ça, et puis le fait que la bande dessinée ne coûte rien à produire permet qu'on nous foute la paix, en gros. Et c'est une liberté très très précieuse.
Et puis on arrive au pire avec un carnet de... Bon, parfois, Et puis, il y a des photos de repérage, moi, ce que je ne fais pas. D'ailleurs, ça peut se voir dans mes bédos, il y a très peu de décors. Mais en tout cas, on arrive avec notre crayon et notre feuille, et les gens, ça les met vraiment en confiance. Vraiment, on arrive tout seul, quoi. Il n'y a pas tout un truc de caméra. On est très peu intrusif dans la BD, enfin dans le dessin en général. Hein. C'est un médium qui est vraiment super respectueux, moi je trouve. Et les gens en plus aiment bien. Moi, dans la jungle, j'ai eu des trucs où je me suis forcée un jour à dessiner des trucs et je dessinais l'endroit où il y avait les avocats qui aidaient les gens pour les problèmes juridiques. Et il y avait des jeunes qui ont commencé à venir un peu me brancher, à me parler. Puis quand ils ont vu que je dessinais, changer complètement d'attitude. Ils ont dit, ah, mais attends, tu dessines ça, attends, poussez-vous, ils poussaient tout le monde. Ils ont commencé à vouloir, tu me dessines. Et ça a changé complètement, alors qu'avant, ils étaient quand même dans un truc un peu provocateur, un peu, je savais pas trop ce qu'ils voulaient. Et puis, vraiment, le regard des gens, voilà, change. Et on arrive aussi masqué, parce que moi, j'ai pu avoir des expériences aussi où on a raconté des scènes et les gens après sont venus me voir en disant, mais je vous avais dit ça en confidence, là, vous me mettez dans la merde, vous avez dit mon nom. Et on l'a fait qu'une fois ou deux en 6 mois et on a vite compris qu'il fallait faire très attention, même quand on avait l'impression d'édulcorer. On n'est pas à l'abri quand même des gens qui nous ont fait confiance et qui sont un peu choqués du.
Il nous arrivait des choses un peu équivalentes, enfin, je sais pas, tu penses peut-être aussi, mais tu as cherché longtemps à obtenir le témoignage d'Edmond Vidal pour notre livre, qui était le chef du gang des Lyonnais, donc un vrai voyou, capé, un sérieux, mais qui a maintenant pris sa retraite et qui, je me souviens, quand tu l'avais contacté, il avait dit, mais je veux plus témoigner, je veux plus être photographié, je veux plus être filmé. Et Benoît avait dit, mais je vais venir avec un dessinateur. Il a dit, oh, un dessinateur, je veux bien.
Ce
qui est un peu humiliant, si on y réfléchit, mais c'est aussi une des vertus de la chose. C'est-à-dire que d'un dessinateur, effectivement, on se méfie moins que d'un caméraman ou d'un photographe dont on pense qu'il va nous voler quelque chose, que le dessinateur vole aussi, à mon avis, pas moins en tout cas. Mais a priori, comme ça, il y a une approche moins invasive du dessinateur. Et on a pu avoir le témoignage d'Edmond Vidal parce que j'étais dessinateur.
C'est plutôt un atout du point de vue du journaliste d'avoir un dessinateur ou une dessinatrice avec ça, parce que du coup, on avance, je ne vais pas dire qu'on avance masqué, mais en tout cas, il y a des défenses qui tombent plus facilement, ou alors c'est une espèce d'interrogation en disant, mais vous faites quoi là, un documentaire en bande dessinée, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, enfin, une espèce d'incompréhension mêlée de on sait pas trop de quoi, qui fait que du coup les personnes acceptent plus facilement parfois de nous parler.
Nous avons ce passage, un documentaire en bande dessinée. Allons bon, on a
Oui, ça c'est récurrent hein, quand on. Alors là, il s'avère en plus que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout amateur de bande dessinée, qui avait un certain âge, donc.
Un ancien journaliste.
Il avait sans doute de la bande dessinée une conception très lointaine, et l'idée d'un documentaire en bande dessinée le laissait un peu quoi. Mais c'est pas grave, enfin ça fait partie du jeu, et j'aime bien moi quand ces choses-là arrivent les mettre en scène. Enfin là, en l'occurrence, sa réaction m'est utile parce qu'il est dans un espèce de déséquilibre dont on peut honteusement profiter, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il ne sait pas trop ce qu'on va en faire. On arrive quand même à la loyale, c'est-à-dire qu'une des choses, à chaque fois qu'on a rencontré un témoin comme ça, la première chose qu'on lui dit, c'est que les pages qu'on va faire à partir de l'entretien qu'il va bien vouloir nous accorder, il les lira avant publication. On ne dit pas qu'il pourra y modifier tout, on dit simplement qu'il les lira. Il n'y aura pas de surprise. Le jour où le bouquin sortira, il saura de quelle façon son témoignage y est retranscrit. Et avec lui, comme avec tous les autres, on a tenu ce principe-là.
Alors, c'était plus compliqué pour La Jungle de Calais, puisque le temps était... Il y a une publication très rapide, mais c'est aussi l'approche que vous adoptez de faire relire aux personnes qui seront représentées.
Oui, alors La Jungle, ça a été particulier, parce que j'avais ce truc-là où il fallait qu'on produise et qu'on publie rapidement, donc on nous a rarement. Les gens en général disaient c'est exactement comme ça. On a quand même vraiment fait un effort. Après, oui, quand j'ai fait des BD comme par exemple celle sur la psychiatrie ou celle que je suis en train de faire en ce moment sur les alternatives à la psychiatrie et traditionnelle, et où j'interroge des gens qui vont me raconter leur vie, puis des vies qui sont pas toujours évidentes, ça me semble un peu tomber sous le sens de leur montrer. Alors moi, je leur montre pas à titre informatif, je leur montre le brouillon, et ils ont tout droit de me faire enlever tout ou partie de ce qui leur convient pas. Ça peut être compliqué parce que parfois les gens vont pas toujours très... Là, j'interroge des gens qui sont diagnostiqués bipolaires, donc ils vont parfois pas bien. Donc c'est compliqué parce qu'ils vont valider quelque chose et ils vont pouvoir me rappeler 45 fois pour me dire en fait là... Donc là, j'arrive un peu à éviter quand même trop de redites, mais je trouve ça quand même que c'est la base... De respecter la parole des gens qui ont eu quand même la confiance. Enfin, il y a un truc de confiance avec les témoins où dans notre travail, même quand je bosse avec Yasmine, mais aussi toute seule, où je me suis dit, moi, mon but, c'est pas de tourner quelqu'un en ridicule, de détourner son propos, de le faire passer pour un con, et surtout pas de faire passer mes idées à travers quelqu'un d'autre, ou de le faire, genre, ouais, il va dire des conneries, du coup, je vais en rajouter pour qu'il ait l'air vraiment débile. Par exemple, à un moment donné, j'ai interrogé un CRS dans la jungle de Calais, on l'a interrogé, et je lui ai fait lire, alors lui, pour le coup, je lui ai fait lire ce que j'avais écrit, et j'ai respecté. Je me dis, parfois, les mots parlent d'eux-mêmes, les situations parlent d'elles-mêmes, il n'y a pas besoin de pousser dans un sens, quoi. Donc, et ça, les gens ne le savaient pas forcément. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de gens de la jungle. Il y a eu très peu de gens des responsables qui ont voulu nous parler. Alors qu'en fait, je trouve ça important de ne pas dénaturer le propos des gens. Après, on est d'accord ou pas avec ce qu'ils disent. Mais ça, et ça, c'est plus journalistique pour le coup, d'essayer de respecter la parole, de se faire porte-voix, mais en aucun cas de parler à la place des gens. Mais c'est pas facile, parce que parfois, on a envie un peu de se moquer. C'est vrai que sur certaines personnes, ça donne envie d'un peu leur faire un petit croche-pied, mais c'est tout l'exercice de pas... de ne pas tomber là-dedans, quoi. Ce qui décrédibiliserait, je trouve, complètement le travail général. Voilà.
Et du coup, comment on met... parce qu'il y a beaucoup d'humour dans vos bandes dessinées. Comment on s'en sort avec de l'autodérision, plutôt que pour ne pas se moquer des autres, on se moque de soi-même?
Oui, il y a de l'autodérision. Puis par contre, avec Yasmine, on ne s'est pas privé de taper sur les élus. Ça, par contre, on l'a fait, parce qu'il y a eu quand même des comportements à Calais qui ont été même bien gonflés de la part de la maire, de la part de certains responsables politiques. Donc ça, on ne s'est pas gêné, parce que taper sur les politiques, c'est quand même... Ce que disait le CRS, d'ailleurs, très justement, il disait c'est un peu la tradition française aussi, guignol, c'est français, et qu'en fait, il y a toujours l'autorité serait toujours tapée dessus en France, c'est comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de... Donc ça, on se l'est autorisé. Mais par contre, pour les individus, eh ben, moi, j'ai essayé à des moments d'alléger. Voilà, quand je perçois un petit peu de drôlerie potentielle dans quelque chose, je tire le fil pour essayer de le faire vraiment émerger, pour rendre l'ensemble moins indigeste. Parce que parler de la jungle de Calais, c'est quand même très dur et très lourd. Et je pense que c'est ce que certaines personnes ont apprécié, c'est qu'ils sont arrivés à lire ce qu'on faisait sans se sentir culpabilisés et sans se sentir écœurés. Et ça, c'était parce qu'effectivement... mais parce que la jungle était comme ça. Dans la jungle, les gens n'étaient pas recroquevillés dans un coin en train de pleurer. Ils se tenaient debout. Ils essayaient d'y arriver, il y avait des gens qui rigolaient, il y avait de l'humour. Donc nous, on a essayé de ne pas faire du misérabilisme. Et après, moi, j'ai toujours fait de l'humour. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé il y a 15 ans, ma marque de... Voilà, ce qui a fait que j'ai été éditée dès le départ, ça n'a pas été mon sens des perspectives, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça a été vraiment parce que j'avais un ton et un humour qui est le mien. Et que du coup, je ne peux pas m'empêcher de mettre dans les BD que je fais. Et il y a des gens qui n'apprécient pas du tout, hein, Enfin voilà, mais je sais pas laquelle la page que c'est, mais voilà, et c'est vrai que se moquer de soi-même, c'est la meilleure manière de pas se faire attaquer après, et donc on se moque beaucoup de nous-mêmes dans cette BD. Mais voilà, on peut se moquer, on s'est moqué de la préfète, enfin on s'est moqué de certains élus, comme voilà Natacha Bouchard, elle en a eu un peu pour son grade, et puis voilà, il y a une paranoïa. Voilà, donc là effectivement, là on est, en fait quand on faisait des choses plus didactiques, c'est là où moi je m'étais... J'essaie de mettre le max d'humour, c'est quand on essaie d'expliquer des choses qui peuvent être ultra ennuyeuses. Et là, voilà, notamment les no-borders, voilà, après c'est tout un truc d'enrober les informations avec du papier à motif, quoi.
Tu t'es attaquée aussi pour la revue dessinée à un sujet hyper alambiqué et complexe des semences paysannes, des réglementations sur les semences paysannes. Ouais. Tu as utilisé Kevin, un agriculteur qui va boire du Roundup bio et qui va nous expliquer ce sujet complexe. C'est aussi une manière, la bande dessinée, de s'attaquer à des sujets compliqués et l'humour de les rendre un peu plus abordables.
Oui, de les rendre. Enfin, c'est vraiment le truc de faire passer la pilule, quoi. Et c'est vrai que l'agriculture, bah, c'est quand même un peu tragique, quoi, ce qui se passe aujourd'hui, bah, par rapport d'un point de vue écologique, puis même d'un point de vue personnel. Aujourd'hui, les agriculteurs, c'est une des profession, il y a le plus de suicides. En Inde, il y a eu des dizaines de milliers de suicides liés à l'introduction de semences hybrides et de pesticides. Et donc, en fait, le suicide au Roundup, effectivement, mon petit paysan qui date du Moyen-Âge et qui se retrouve complètement isolé et seul au milieu de sa ferme, il essaie de se suicider au Roundup, puis il se trompe et il prend un Roundup magique, entre guillemets, qui le transforme, c'est Roundupi, je crois. Voilà. Il prend un truc qui le rend hyper bio. Et là, en fait, il découvre avec Mère, c'est la nature. Avec Mère Nature qui débarque, en fait, et qui le sauve et qui lui explique. Voilà.
Et à un moment, il va se retrouver devant un stand de Monsanto Bayer. Voilà. Ça permet aussi de tourner en dérision les méchants. Oui. Enfin, là, je pense que dans...
Oui, là, c'est clairement le diable, un peu Monsanto et Bayer. C'est un peu, quand on connaît leur histoire, du coup, ça nous a forcé à nous plonger dans les histoires des pesticides. Mais c'est vrai que leur histoire, c'est quand même une entreprise qui a signé un pacte avec le diable. À un moment, si le diable existe, ils l'ont signé, c'est sûr. Parce que leur histoire, ils ont quand même commencé par faire, Zicombé, c'est eux, des camps de concentration, c'est eux. L'agent orange qui est au Vietnam, c'est eux. Et ensuite, ils avaient tous leurs produits chimiques, ils savaient plus quoi en faire, et ils se transformaient en pesticides. Il y a vraiment eu un truc. Et quand on. Enfin, c'est extraordinairement quand même cynique comme situation. Et en plus, ils sont responsables de plein de tragédies humaines et plein de scandales sanitaires. Et ils sont toujours là, quoi. C'est quand même. Donc, c'est vrai, raconter ça, pour le coup, ça fait un peu rigoler quand même, quoi. Tellement c'est horrible. Mais. Puis l'humour est dans le pré. L'amour est dans le pré, ça fait quand même un peu toujours rigoler, donc j'ai utilisé ça aussi.
Oui, parce que la première fois qu'on rencontre Kevin, il est en train de regarder L'amour est dans le pré, il se dit que non, franchement, c'est plus possible, cette vie n'a plus aucun sens. Et c'est à ce moment-là qu'il va se siffler une bouteille de Roundup pour en finir. Alors, j'ai des petits problèmes d'affichage, du coup, vous n'aurez pas.
Je raconte l'histoire, il y a toute l'histoire de la. C'était compliqué de faire ça en 27 pages, de raconter toute l'histoire de l'agriculture de la Brie du Moyen-Âge à nos jours. Donc il a fallu faire. Mais c'est vrai que c'était typiquement un endroit où j'ai essayé de mettre énormément d'humour dedans parce que le sujet était énormément chiant quand même. Faut dire ce qu'il y a. Donc ça a été très. Celui-là a été très difficile, ouais. Parce que parfois, quand on a de la chance, on n'a pas besoin de rajouter tellement de choses. Les situations sont passionnantes dans le bon ou dans le mauvais, mais. Et puis juste, elles se suffisent à elles-mêmes. Et la BD a aussi cette capacité, c'est vrai, à essayer de faire rigoler, de mettre un peu des paillettes sur le bitume.
C'est beau. Et alors, traiter de sujets complexes en bande dessinée, on en a eu aussi un exemple avec une bande dessinée qui vient de sortir tout récemment.
C'est qui manque un peu d'humour.
Mais il y a de l'humour aussi.
Il y a de l'humour. Ne serait-ce que dans la représentation de Bernard-Henri Lévy, on sent des pointes d'humour. Le défi, c'était pas tant de faire passer par de l'humour des sujets chiants, c'était de reconstituer une affaire avec des ramifications à l'infini et le travail journalistique de quatre enquêteurs, d'essayer de rassembler les cinq même, de rassembler les pièces du puzzle pour faire comprendre une affaire qu'on avait tous plus ou moins croisée dans la presse, mais par bribes, avec des personnages multiples, avec des personnages dont on connaît très bien les noms, et puis d'obscurs intermédiaires libyens. Là, la bande dessinée, en quoi elle vous a été utile, Benoît ?
Moi, ce qui m'a plu dans ce projet, c'est le côté collectif, justement. C'est-à-dire que les journalistes, c'est souvent une profession très, très solitaire. Alors, surtout dans le journalisme dit d'investigation, enfin, moi, c'est une expression que je ne reprends pas à mon compte, mais parce que je trouve qu'elle n'a aucun sens. Mais en tout cas, dans ceux qui s'intéressent plus spécifiquement, on va dire, aux dossiers politico-financiers ou aux affaires d'État ou importantes, ou aux gros scandales. Voilà, on est chacun un peu dans notre couloir. Donc moi, j'ai trouvé ça intéressant on se regroupe, on forme un collectif et on met en commun toutes nos informations, tout notre travail, parce qu'on estime que ce sujet est d'intérêt public, un intérêt supérieur finalement qui dépasse notre petite personne. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est effectivement sur l'affaire en elle-même. En fait, c'est une affaire que chacun croit connaître, plus ou moins, mais en fait qu'on ne connaît pas vraiment. Et du coup, l'idée, de rassembler toutes les pièces du puzzle, tous les petits cailloux, essayer de les rassembler. La BD, ça, c'est on disait tout à l'heure, quand on parlait du sac, des années de plomb, ça permet de rendre clair des choses qui peuvent sembler compliquées. Alors, je pense notamment à tout ce qui concerne les flux financiers, parce que dans ces affaires de corruption, de financement politique présumé, aujourd'hui, dans la mondialisation financière, ça passe par des dizaines de coupes-circuits financiers, les paradis fiscaux, etc. Donc, comment est-ce qu'on représente ça ? Donc là, pouf, en une planche, comme là, par exemple, on peut essayer de donner une idée sur comment Claude Guéant a acheté son appartement 500 000 euros et comment finalement ce financement remonte à de l'argent libyen. Voilà. Donc, ça permet de mettre un visage sur une galaxie de personnages qui donc sont au cœur de cette histoire. Alors il y a des têtes d'affiche, des personnages politiques qui sont connus, Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et d'autres. Et puis il y a d'autres personnes qui sont dans la coulisse. Alors, vous avez peut-être entendu parler de certains d'entre eux, comme Ziad Takieddine, donc ce qu'on appelle des intermédiaires, c'est-à-dire des personnes qui sont là pour intervenir dans des contrats, sont des ouvreurs de portes. Voilà, ça c'est le terme pudique pour les qualifier. Donc, ils intercèdent auprès de grandes entreprises ou auprès de chefs d'État, ou là, dans le cas présent, auprès de Kadhafi, et ils servent d'intermédiaires, ils font le lien avec des responsables politiques français, donc en l'occurrence là, les sarkozystes. Et puis il y a Alexandre Djouri qui est un autre intermédiaire qui lui aussi intervient dans ces affaires-là. Alors ce sont des parcours là aussi. La bande dessinée permet de raconter ces parcours en quelques planches parce que Djouri et Takieddine sont deux intermédiaires qui travaillent tous les deux pour la droite française mais qui sont concurrents. Donc c'est un peu comme dans Amicalement Vôtre, mais version intermédiaire. Ils ont des parcours complètement différents. Il y en a un, il vient de la haute bourgeoisie libanaise, c'est Takieddine. Et puis l'autre, Djouri, lui, c'est plutôt une petite frappe. Il a participé à des braquages, etc. Puis il est monté en grade. Et puis finalement, il a intégré les réseaux Pasqua, la France-Afrique. Et puis il est devenu concurrent de Takieddine. Donc voilà, donc la bande dessinée permet en quelques planches de raconter tout ça et de rendre lisible une histoire qui paraît très compliquée.
Ces affaires, finalement, que ce soit le sac, que ce soit l'affaire libyenne, ont un caractère nébuleux qui protège les protagonistes. Et la bande dessinée, c'est une manière pour vous d'enlever ce flou, cette complexité, de dérouler ces histoires de manière plus cohérente.
Ça a vraiment un effet révélateur au sens premier, parce que certains vont dire oui, mais par exemple dans ce livre, Sarkozy-Kadhafi, il n'y a pas de révélation, encore qu'il y a quelques petits éléments inédits, mais au sens journalistique du terme, au sens de scoop, etc. Mais par contre, et on avait déjà eu ça avec Étienne dans notre travail sur les années de plomb, le simple fait de rassembler tous les éléments, de trouver une narration claire, de mettre tout ça en cohérence, du coup, tout d'un coup, on voit des choses, donc au sens premier, d'une révélation qu'on ne voyait pas avant. Et surtout là, on met en cohérence toute cette histoire. C'est-à-dire, c'est pas juste une histoire de mallette de billets. C'est aussi une histoire de comment deux chefs d'État, donc l'un Nicolas Sarkozy qui veut conquérir le pouvoir, on est avant son élection à la présidence de la République, dès 2005, veut avoir le contact avec Kadhafi, et il l'obtient. Kadhafi, lui, il a une autre logique qui est une logique de réhabilitation. Il veut être à nouveau respectable. Donc, il annonce qu'il va renoncer au terrorisme, etc. Donc, on va lui dérouler le tapis rouge après l'élection de Sarkozy. Et puis, pour plein de raisons qu'on explique dans le livre, au bout d'un moment, le vent va tourner. Et du coup, Kadhafi va devenir gênant. Et là, à ce moment-là, ça ne sera plus le tapis rouge, ça va être le tapis de bombe. Et là, la France, tout d'un coup, va se retrouver au premier rang d'une coalition militaire. Et on raconte aussi tous les coulisses, finalement, de cette histoire, comment il y a eu aussi beaucoup de manipulations dans le récit, finalement, de cette guerre. On est si on se remet dans le contexte des printemps arabes, où il y a effectivement plein de révoltes qui, à juste raison, se déroulent dans plein de pays arabes. Évidemment, en Libye aussi, il y a des foyers de révolte. Alors, Kadhafi, il voit ça de très près. Pourquoi ? Parce que notamment les Français lui ont vendu de la technologie Made in France pour espionner toute sa population. Moi, j'avais pas mal enquêté sur ce sujet-là. Donc, il voit tout ça quasiment en direct. Mais à partir de cette situation bien réelle, va se greffer un récit. C'est-à-dire que tout d'un coup, parce que Kadhafi devient extrêmement gênant, on va en rajouter sur le fait qu'un génocide serait en préparation, que Kadhafi bombarderait son peuple, etc. Et du coup, les Français, Nicolas Sarkozy, vont se retrouver à la tête de cette coalition militaire.
Alors, c'est une histoire très très sérieuse, appuyée sur des faits, des documents, des archives qui sont à la fin de la bande dessinée. Et puis, à des moments, on voit Cécilia Sarkozy en Superwoman, le point en avant, traverser le ciel. Quelle liberté on se donne quand on dessine le réel ? Quelle liberté vous donnez en tant que dessinateur ? Et comment on se positionne par rapport à cette marge de manœuvre de créativité quand on est journaliste ?
Là, enfin, pour répondre précisément sur cette scène-là, comme sur d'autres scènes, en fait, on a vraiment travaillé en étroit rapport avec Thierry Chavant, en interaction avec le dessinateur Thierry Chavant. C'est-à-dire que on se faisait entre nous, journalistes, des espèces de mini-réunions, et lui, il assistait à ces réunions. C'était notre premier lecteur, parce qu'en fait, il réagissait lui-même à ce qu'on se disait entre nous. Donc, quand on était dans la phase d'écriture, de découpage de cette histoire-là, et lui. Il était assez sidéré, en fait, même en tant que citoyen, finalement, parce qu'il découvrait une grande partie de cette histoire-là. Et donc, par exemple, pour l'histoire de Cécilia Sarkozy, là aussi, je parlais de récits médiatiques, c'est tout ce qui s'est passé autour de la libération des infirmières bulgares. Nicolas Sarkozy, avant même son élection, s'était positionné sur ce sujet-là en disant que la France irait libérer donc, les infirmières bulgares, qui étaient des infirmières qui étaient détenues dans des conditions absolument atroces par le pouvoir libyen. Et elles étaient accusées d'avoir empoisonné des enfants libyens. Tout ça a été complètement monté. Et du coup... leur sort a été finalement utilisé dans un récit politique, c'est-à-dire que la France s'est posée en intermédiaire au dernier moment pour les faire libérer, alors qu'il y avait déjà des négociations qui étaient engagées, notamment par l'Union européenne. Et puis, le rôle de Cécilia Sarkozy a été mis en avant comme vraiment la personne qui, tout d'un coup, telle une superwoman, a tout déclenché, quoi. Elle est allée voir le guide, et puis tout d'un coup, tout s'est déverrouillé, et dans sa grande mansuétude, Kadhafi a dit « C'est bon, vous pouvez repartir avec les infirmières bulgares. » Alors que, évidemment, tout ça est beaucoup plus compliqué que ça. Derrière, il y a notamment des enjeux nucléaires. La France s'était engagée à vendre une centrale et à développer une coopération nucléaire avec Kadhafi. Donc voilà, ça, on peut le montrer en quelques cases.
Cette indignation ressentie par Thierry Chavant au moment de vos réunions de travail pour produire cette bande dessinée, est-ce que, Étienne Davedeau, vous l'avez ressentie au moment de l'enquête sur le sac, sur d'autres barbouzes à une autre époque, d'autres gros bras, d'autres intermédiaires? Est-ce qu'en faisant cette bande dessinée, Cher pays de notre enfance, vous avez été impacté de la même manière?
Je sens cet impact, je ne l'aurais pas fait. Je veux dire, c'est parce que ça nous semble même carrément un des points centraux de ce livre. L'histoire dont on parle dans Cher pays de notre enfance, c'est une histoire qui court au milieu de la Ve République, qui est à la fois un peu loin de nous pour que les gens qui ont en gros moins de 50 ans s'en souviennent ou en ont entendu parler. Et puis c'est pas non plus une période qui est encore dans les livres d'histoire. Donc c'est une espèce de trou noir comme ça, mémoriel, dans lequel pourtant se passent des choses qui conditionnent encore le monde dans lequel on vit, puisque c'est la Ve République. Les gens dont on parle sont des gens qui ont formé, je recite le nom de Sarkozy, mais nous on met en scène on parlait de Pasqua, on parlait de gens comme ça dont les héritiers étaient au pouvoir au moment où on faisait le livre, presque. Et donc cet effet de sidération là, quand on redécouvre ces choses là, quand on les remet en perspective, c'est un des, sinon des moteurs, en tout cas des carburants du livre, et c'est important de pouvoir le remettre en scène. Et la bande dessinée, elle a cet avantage là qu'on peut, une fois qu'on est vraiment documenté, qu'on sait ce qui s'est passé, on peut le remettre en scène. Imaginons qu'on fasse Cher pays de notre enfance en vidéo pour une chaîne de télévision. Il y aurait des témoignages de gendarmes, d'anciens juges qui seraient là pour nous raconter ce qu'ils ont vu. Et pour que les auteurs du documentaire vidéo montrent les choses en train de se passer, il faudrait embaucher des comédiens, retrouver des voitures d'époque, des costumes d'époque. Il y aurait sans doute le mot « reconstitution » qui clignoterait en bas. Et donc on aurait un espèce d'objet narratif hétérogène où on aurait des gens qui parlent en vrai, des gens qui sont des comédiens qui jouent quelque chose. Et moi, ça m'emmerde un peu. La bande dessinée, elle n'a pas ce problème-là. La bande dessinée, elle est reconstitution par essence. À mon avis, la télévision, le cinéma aussi, mais on le voit moins. Mais en tout cas, la bande dessinée, elle a cette capacité de rendre homogène des récits qui viennent de sources différentes, mais qui sont, par la grammaire propre de la bande dessinée, intégralement lissées. Et dans Cher pays de notre enfance, il n'y a pas de rupture stylistique ou de rupture narrative quand on voit Colomba et Davodeau qui interviewent un ancien juge, ou quand on voit la mise à sac de la Poste de Strasbourg par une voiture dans les années 70. Tout ça, c'est de la bande dessinée sans qu'il y ait de cassure narrative. Et je crois que peu d'autres moyens narratifs le permettent.
Lisa Mandel, on y a un peu répondu avec Kevin, notre qui s'est saoulé au round-up. Mais est-ce que vous dessinez que ce que vous voyez, ou au contraire, il y a une marge de liberté? Quelle est cette marge de liberté par rapport à la création, l'invention? Est-ce qu'on peut faire surgir des personnages? Est-ce que tout est possible quand on parle du réel?
Oui. oui, tout est possible quand on parle du réel. Après, je pense que tout ce qui est important, c'est que le lecteur puisse bien faire la part des choses entre ce qu'on a rajouté pour expliquer quelque chose plus simplement et ce qui est la vraie parole de la personne interrogée. Voilà, il y a des moments où il faut rajouter de la fiction là où il n'y en a pas besoin, ce serait une erreur tragique. Donc en fait, c'est arriver à faire la part des choses entre le moment où on se dit « Ah là, je peux faire un petit encart finalement et je vais raconter quelque chose en rajoutant Superman, Wonder Woman, de ce que vous voulez. » Et quand on écoute un témoignage de quelqu'un qui raconte comment il a été diagnostiqué bipolaire, bon, on ne va pas rajouter Superwoman à ce moment-là, ça serait vraiment malvenu. Donc je pense que oui, en faisant un choix de découpage, on peut à peu près tout raconter alors qu'on parle du réel, parce que le réel et l'imaginaire, c'est quand même quelque chose qui coexiste dans le même espace. Je veux dire, c'est pas forcément... Après, qu'est-ce que c'est la réalité ? Je veux dire, donc voilà, ça interroge, c'est trop philosophique après, mais...
effectivement, en fait, tout est possible à partir du moment où les choses sont claires pour le lecteur.
Voilà.
Nous, par rapport à Sarkozy-Kadhafi, comme on est journaliste, on avait cette obsession d'être au plus près des faits. Mais on voulait à chaque fois que le lecteur sache exactement qui parle, d'où il parle, quelle est la source. Et c'est pour ça que, sur proposition d'ailleurs de la revue Dessinée, on a intégré un personnage qui est le seul personnage fictif, mais il n'y a absolument aucune équivoque pour le lecteur. Il sait que c'est un personnage fictif, qui est un espèce de Jiminy Cricket qui accompagne le récit, qui finalement est notre voix à nous, mais du coup qui donne les clés en fait. Il dit voilà, ça se passe à tel moment, ça c'est contesté par telle personne, et donc voilà, tout est clair pour le lecteur.
Oui. Et c'est vrai que en fait, par exemple, moi bizarrement, je fais comme vous, je peux rajouter des choses complètement fantasques, mais par contre, quand j'interroge les gens, ce qu'ils disent est vrai à la virgule près parce que je les enregistre et que souvent, en fait, leurs paroles, c'est vrai, c'est comme si elles sortaient directement de leur bouche. Donc il y a cette espèce de mélange là qu'on peut faire pratiquement qu'en BD, où on est dans un réalisme pur qui est quasiment filmé. Et dans un délire total, la case d'après. Et pour autant, ça rend l'histoire encore plus en fait vraisemblable. Ce que vous disiez aussi tout à l'heure, ce qui est fou, c'est que ce mélange des deux rend finalement l'histoire à 360 degrés. Quoi. Enfin, ça rajoute quelque chose de véracité en fait, de pouvoir se permettre ça rajoute plus de nuances en fait dans le propos.
Là où j'ai eu l'occasion moi, de pousser ce système-là au plus loin, c'est dans un livre. Qui n'est pas du coup de la bande dessinée du réel puisque ça s'appuie précisément là-dessus, c'est la balade nationale que j'ai co-réalisée avec Sylvain Venner, historien. On a mis en scène pour parler des origines de la France, de l'idée qu'on se fait de ce qu'est être français, d'où nous vient ce qu'on croit savoir de l'histoire de France, on a mis en scène un dispositif délibérément absurde, c'est-à-dire qu'on a convoqué à l'époque contemporaine, des grands personnages de l'histoire de France. Il y a Molière, Marie Curie, Jeanne d'Arc, le général Michelet et Alexandre Dumas qui reviennent à notre époque faire un tour de France en camion Renault. Et ils sont habillés comme ils étaient habillés à l'époque. Le général Dumas, il a son costume de général de la Révolution française. Jeanne d'Arc, elle a son armure au début, mais c'est un peu chiant en voiture, donc elle la jette assez vite. Mais on injecte donc ces personnages-là dans un contexte strictement contemporain. Et on parle avec eux de ce qu'est être français d'un point de vue historique, géographique, du point de vue de la science. Il y a Marie Curie qui est là pour la science, il y a un militaire, il y a un artiste, Molière, etc. Mais il est évident, d'un point de vue historique, on a fait en sorte, Sylvain Venner, historien, a fait en sorte, moi je ne suis pas historien, d'être inattaquable. C'est-à-dire que toutes les choses qu'on met en scène qui sont de la matière historique, elle est solidement étayée. Et puis, à côté de ça, on a un récit fantaisiste. Si quelqu'un vient nous dire, effectivement, à mon avis, c'est pas possible que Jules Michelet, historien, fasse le plein d'un camion Renault à la station Total de Calais, on va le dire, oui, effectivement, ça, il va de soi que ça n'est pas un matériel historique, que ça, c'est le matériau fantaisiste du récit. Mais la différence est telle entre les deux qu'il n'y a pas de possibilité de confusion. Ce qui est fantaisiste est fantaisiste, ce qui est historique est historique et l'est solidement. Et donc, ça fait partie de ça. Et cette expérience-là, pour moi, était assez intéressante parce que ça pousse vraiment au maximum ce dont on parle à l'instant. Cette capacité de la bande dessinée à mixer deux langages.
La bande dessinée mixe deux langages et fait se rencontrer des professions et des regards. En l'occurrence, un historien, un dessinateur de bande dessinée, un journaliste, ou alors cinq journalistes et un dessinateur de bande dessinée, des sociologues et des auteurs de bande dessinée. La rencontre d'une profession créative, assez solitaire la plupart du temps, et de professions qui ont plus prise avec, avec le réel, contemporain ou historique. Est-ce qu'elle est naturelle ou est-ce que ça frictionne parfois ? Peut-être qu'en tant que directrice de la collection Sociorama, tu as un panel d'expériences permettant...
On fait, avec Sociorama, on fait des mariages arrangés. Donc, comme dans tout mariage arrangé, bah, parfois ça se passe bien et parfois ça se passe pas bien. Et c'est vrai que la place du dessinateur et la place du sociologue, elle est pas toujours évidente à trouver. Et que souvent, en fait, ce qui s'est passé, moi j'ai trouvé, enfin, l'écueil qu'il pourrait y avoir, c'est que souvent le dessinateur se retrouve dans un statut exécutant. Non pas parce que le sociologue va le bouffer, mais parce que lui-même parfois a le syndrome du bon élève. Moi, je sais que notamment des jeunes auteurs et surtout des jeunes autrices, hein, c'est pas pour faire du sexisme, mais je pense qu'il y a un côté bon élève parfois chez les jeunes femmes qui voilà, c'est l'éducation, c'est la, là, je sais pas, je ne me balancez pas des tomates, mais je l'ai remarqué, il y a un côté on veut bien faire et tout, donc ces jeunes femmes-là ont pu se faire écraser parfois par d'autres femmes qui étaient sociologues avec elles, hein. C'était pas une question de sexe et de genre, mais parce qu'elles voulaient faire bien, et donc finalement leur créativité, est-ce que la BD peut ramener d'extraordinaire dans le récit scientifique, était complètement gommée, et quand le dessinateur se retrouve illustrateur, je trouve qu'on perd tout ce que la bande dessinée a apporté au discours rationnel. Et parfois, ben, dans notre collection, on a pu voir ça. Mais parfois aussi, l'auteur a beaucoup de personnalité, arrive à tenir tête, voire il fait le rebelle de la société, et donc il va aussi pourrir une enquête parce que il va pas du tout écouter ce qu'on lui dit, il va faire tout ce qu'il veut lui, et puis alors il est comme un cheval sauvage, là, un chien fou. Et donc là, pareil, c'est le même problème pour nous, hein, parce qu'à un moment donné, on doit réussir à faire ce juste mélange entre un peu de folie, un grain de folie et en même temps une véracité scientifique, et c'est pas évident, et je sais que moi quand même je me suis retrouvée dans un fonctionnement dans Sociorama très universitaire, parce que la personne avec qui je travaillais faisait partie au départ d'un collectif de sociologues amateurs de BD. Donc on s'est retrouvé avec un comité de lecture composé de 5 sociologues qui, en plus du sociologue auteur de l'enquête, en plus de Yasmine Boiga qui était sociologue et directrice de collection avec moi, on avait 5 sociologues qui venaient relire derrière. Donc on s'est retrouvé, nous, les dessinateurs, il y avait moi et l'auteur de BD qui faisait le bouquin, on s'est retrouvé parfois en position d'infériorité numérique qui a pu créer des frictions aussi, parce que c'était, mais moi, si j'amène tous mes copains scénaristes et on vient, parce qu'ils disaient à un moment donné, il faudrait ramener des scénaristes, enfin ils étaient pour multiplier les gens, et ça, par exemple, c'est des espaces, et aussi au niveau de l'espace-temps, pour un sociologue, recommencer 10 fois une BD, c'est pas un problème pour eux, parce que c'est ce qu'ils ont fait dans leurs enquêtes, c'est ce qu'ils ont fait dans leur doctorat, et alors qu'à un moment donné, nous on disait, mais tu sais, l'auteur de BD là, il va se suicider, de une, de deux, il a été payé 9 000 euros, ça fait un an qu'il est sur le projet, je pense qu'il va mendier sous les ponts bientôt ou se prostituer, je pense que là, il faut arrêter, il faut accepter que le truc est pas parfait, et il faut l'éditer. Et ça, pour le sociologue, et les sociologues ont quand même une tendance à l'exactitude, à l'amour de l'exactitude, de voir un peu obsessionnel sur le détail, ce qui est normal, c'est leur métier, mais alors en BD ça marche pas, il y a un moment il faut accepter que les choses sont pas nickel et que pourtant on arrête, on passe à autre chose. Donc ça, c'était aussi faire un pas, les sociologues ont dû faire un pas vers les dessinateurs, les dessinateurs faire un pas vers les sociologues en acceptant aussi, mais parfois il y a eu des très belles rencontres et parfois ça a été, voilà, plus compliqué, mais c'était en tous les cas ultra intéressant, ça c'est sûr.
Je crois que pour prolonger, ouais, pardon, parce que donc les sociologues, je sais pas, mais en tout cas pour les journalistes, pour moi, ça a d'intérêt une enquête en bande dessinée que si le journaliste devient un peu dessinateur et si le dessinateur ou la dessinatrice devient un peu journaliste, c'est-à-dire qu'il faut que chacun s'implique dedans. Et enfin, toi, tu l'as vu, Étienne, aussi, voilà, tu t'es immergé dans toute cette matière-là, tu as pris ce que tu avais envie de prendre. Pareil, Thierry Chavant sur le projet Sarkozy-Kadhafi, il s'est énormément documenté, il s'est saisi de cette matière-là, et puis et nous pareil aussi dans l'autre sens, c'est comme ça que ça a un intérêt.
Mais... clairement, je ne ferai pas un livre où je serai juste illustrateur, c'est pas mon boulot, ça m'intéresse pas, enfin je n'ai pas du tout envie de ça. Et sur Cher Pays de notre enfance, on a vraiment fait l'enquête tous les deux, on est allé rencontrer les gens tous les deux, et moi j'ai besoin de le voir, c'est pas juste un caprice de gars qui veut pas rester dans son atelier, j'ai besoin de voir comment se passent les choses, j'ai besoin d'aller voir les gens que je vais dessiner, de voir où ils habitent, de voir comment c'est chez eux, et on formait un tandem assez efficace du coup, parce que quand on allait rencontrer tous ces gens, Benoît, c'était le gars qui avait en tête toutes les moindres ramifications des affaires de l'époque, qui pouvait poser des questions chirurgicales qui tapaient là où ça faisait mal. Et moi, j'étais plutôt le bon flic, le gars qui posait des questions plus généralistes. Moi, je pensais déjà au lecteur, qui était forcément plus dans ma situation que dans la sienne, et à qui il allait falloir défricher un peu le tableau. Donc, je posais des questions un peu plus larges. Lui tapait là où ça faisait mal. Et puis moi, je m'occupais aussi de l'image à venir. C'est-à-dire que quand on va voir un ancien juge qui vit dans une maison un peu en ruine, remplie de vieux bouquins, une maison très chaleureuse, ou un ancien flic qui vit dans un appartement tiré au cordeau, nickel ou tout bruit, où il n'y a pas une poussière, ce sont des éléments non-verbaux qui parlent. Et la bande dessinée, qui est aussi un travail d'image et de dessin, elle porte ça. Et moi, je fais très attention à ça. Évidemment, quand on fait de la radio, peut-être qu'on est moins sensible à ça. C'est tout à fait logique. Mais justement, la complémentarité des deux est très importante. Et les décors, les attitudes, les expressions corporelles, la façon dont les gens sont habillés, toutes ces choses qui relèvent du graphisme, on ne peut pas les négliger. Enfin, il me semble que ça fait vraiment partie du job. Il faut être là pour les cueillir.
Bah non, je suis ultra d'accord, c'était exactement... Non, mais c'est vrai, c'est exactement ce qui s'est passé aussi.
On manque un peu de polémique sur ce
plateau. Ouais, on n'a pas de polémique. Non, mais avec Yasmine, c'était vrai qu'à un moment donné, à la fin, moi, je regardais... En fait, moi, je regardais tout comme ça. Je regardais les gens, la tête qu'ils avaient, l'ambiance. Et elle écoutait l'interview, elle notait tout. Et c'est vrai qu'à la fin, on arrivait à quelque chose d'hyper complet. Mais de la même manière, et c'est vrai que je ne me l'étais pas formulé comme ça, on a fait un pas l'une vers l'autre. C'est-à-dire que moi, je pense que je suis devenue un peu plus sociologue. Et elle est devenue un petit peu plus dessinatrice, je dirais pas ça, mais narratrice. C'est-à-dire qu'à la fin, elle arrivait à capter que telle histoire qui lui était arrivée, ça allait m'intéresser. Parce qu'au début, on a eu pu avoir des frictions où, quand je ne l'accompagnais pas sur le terrain, je ne voulais pas dessiner ce qu'elle me racontait. Parce qu'il y avait genre 45 personnes dans une cahute à dessiner, que je n'avais pas du tout envie de le faire. Parce que les conversations, je ne savais pas comment j'allais le raconter. Et donc, elle a commencé à me raconter des histoires où elle a senti que visuellement, je pouvais les raconter en BD. Et donc, il y a eu des très belles histoires, par exemple, dans la BD, où j'y étais pas, en fait. Et c'est juste son récit, et il fonctionne hyper bien. Mais on a mis un temps à s'adapter l'une à l'autre. Au début, en fait, elle essayait de me raconter des trucs de manière rigolote. Et ça, je sais que ça a été... par exemple, un truc, je lui ai dit « Non, mais là, Yasmine, je t'arrête tout de suite. » Et ça, elle avait été hyper blessée parce qu'elle voulait vraiment... En fait, elle avait cette envie de raconter aussi. Et après, quand elle a trouvé son propre ton, c'est là où on a pu commencer à ensemble, finalement, où la narration, elle s'est faite à deux. Et la sociologie aussi, d'un certain... Donc, c'est vrai que quand ça... Mais il faut du temps, je trouve. C'est pas forcément spontanément qu'on va réussir à se rencontrer, quoi.
Comme c'est un travail long, il y a forcément les premières semaines où on se cherche un peu, on ne se connaît pas forcément beaucoup, on regarde comment on va travailler. Tout ça se cale, ça peut se caler assez vite, et c'est bien quand ça se cale assez vite. Mais rapidement, on sait vers quoi on se dirige en termes de façon de travailler. Et puis en termes de résultats tels qu'on l'imagine. Je sais que pour Cherpé notre enfance, où on a passé beaucoup de temps assis avec des gens qui nous parlent, on a fait le choix, Benoît et moi, de se dire, bon, on s'adresse à des adultes, on a un sujet un peu raide, on ne se défile pas, on va dessiner beaucoup de conversations assises entre nous deux et la personne qu'on interviewe. À dessiner, je le savais, je te l'ai dit, je savais que ce ne serait pas le livre le plus amusant à faire en termes de dessin, parce qu'il y avait beaucoup de bulles, il y avait beaucoup de scènes immobiles, mais on s'y est tenu parce que ça nous semblait correspondre aussi à une dimension du livre importante. Et donc ça fait partie des choses qu'il faut régler au départ, ou en tout cas dans les premières semaines de travail.
Mais c'est vrai que aussi, ce qui fait, je pense que ce qui a été votre cas aussi, c'est qu'à un moment donné, derrière les professions, c'est deux personnes qui se rencontrent. Et le principal, même s'il y a des fois des désaccords et tout, c'est d'avoir la même vision du monde. Enfin, quelque part, moi, je sais qu'avec Yasmine Boga, avec qui parfois vraiment ça. Bon, elle est pas là, non, mais j'en profite. Non, mais ça a pu être très compliqué. On était très fatigués et le terrain était très fatigant. Le terrain était épuisant émotionnellement. Mais dans le fond, on avait la même vision du monde. Et donc, à partir de là, on arrive à bosser ensemble parce qu'on veut raconter la même chose aux gens. Et je pense que c'est sûrement ce qui va t'arriver. Et je pense que, par contre, faire un duo avec quelqu'un qui n'a pas la même vision du monde que soi, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Et voilà, donc en fait, il faut trouver le bon binôme qui partage un certain regard.
C'est ce qu'on s'emploie à faire à la revue dessinée avec des résultats plutôt chouettes en général. Et il y a aussi le ce que permet la bande dessinée, il y a des moments où, en tout cas pour le journalisme, c'est l'outil idéal pour, par exemple, protéger des sources. Là, on a un exemple avec la planche qui est derrière nous, d'anonymisation beaucoup plus drôle que juste le flou de la télévision ou par des sources proches du dossier d'un article. C'était aussi un jeu et un plaisir pour le journaliste, j'imagine.
Oui, alors déjà, si je pars de mon travail, l'avantage de la radio par rapport à la télévision, c'est que du coup, on a quand même un écran au sens propre de moins, parce que quand vous débarquez avec une équipe de télévision, tout de suite, ça fait masse. Et pour interviewer quelqu'un dans des bonnes conditions, c'est compliqué. La radio, moi, c'est toujours pour ça que j'ai adoré et que j'adore toujours ce média. C'est beaucoup plus tranquille par rapport à ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'un micro, ça n'impressionne pas. Mais déjà, ce n'est pas la même relation aux gens à qui on parle. Alors, un stylo, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Du coup, c'est vrai que là, bah, ça permet, comme dans cette situation-là, où on a quelqu'un qui ne veut pas montrer son vrai visage, du coup, de lui donner de multiples visages. Et il y a un autre exemple aussi dans l'histoire, quand on rencontre un autre personnage qui est quelqu'un qui... elle ne veut pas cacher son visage, mais elle ne veut pas montrer son visage actuel. Donc, en fait, elle sort un portrait d'elle plus jeune et elle demande à ce qu'on la dessine plus jeune. Donc, comme
et ça, le fait, mais en le précisant au lecteur, évidemment. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'honnêteté dont parlait Benoît tout à l'heure. Cette dame qui a un certain âge, voilà, c'est cette scène-là. Elle ne veut pas que je la dessine comme elle est à son âge, mais par contre, elle dit qu'elle était très belle à 20 ans et elle nous sort un portrait, vraiment, tel que je le dessine. Elle va chercher le portrait dans sa chambre, elle nous le montre et je lui dis, il n'y a pas de problème, on va faire l'interview et je vais vous dessiner comme vous étiez à 20 ans, si ça vous fait plaisir, mais on va le dire aux gens, c'est tout.
Et en fait, c'est pas juste un détail, parce non. Que quand même, le point important, tu disais, par rapport au dessin, enfin moi, le point commun que je vois avec les reporters, en tout cas radio, c'est le détail. Tout est dans le détail, en fait. Et donc, un détail peut changer complètement la perception d'une scène ou d'une situation. Et donc là, le fond et la forme sont raccords, parce que finalement, cette femme, c'est en fait, on comprend que c'était l'amante du juge Renaud, donc un magistrat qui a été assassiné dans les années 70, qui était un juge d'instruction qui était intègre et qui essayait de lutter contre le crime organisé. Et donc, on comprend qu'effectivement, ils ont été très proches à l'époque. Et là, elle convoque ses souvenirs, sa mémoire. Et du coup, le fait d'avoir cette image de cette femme plus jeune a du sens aussi, parce que c'est tout son passé qui ressurgit tout d'un coup. Dans un coin de la pièce, il y a le portrait justement du juge Renaud qui est discrètement posé sur une table basse. Donc en fait, tout est raccord à ce moment-là. On se fait pas juste plaisir en disant « Oh, on va dessiner un beau portrait d'elle ». Non, c'est juste la réalité du moment qu'on est en train de vivre.
Moi, je cours après ces trucs-là. Quand cette dame me demande de la dessiner comme ça, elle pense m'embêter, mais elle m'embête pas. Mmh. Je trouve que c'est une super idée. Je la remercie pas parce que je lui explique pas que narrativement, vous savez, ça va faire un super truc, parce que c'est pas son sujet. Mais moi, dès qu'elle me brandit ce truc-là, je fais la photo et j'ai en tête la séquence telle qu'on va la faire. Et je sais qu'on est en train de faire de la bande dessinée. Mmh. On est en train de faire de la bande dessinée. Et moi, c'est après ces moments-là que je cours dans ces livres-là.
Il y a des moments comme ça qui s'imposent comme d'évidents moments de bande dessinée sur le terrain, dans la jungle de Calais, à Beyrouth ou ailleurs.
Ah bah oui, bah quand c'est bah oui, il y a des histoires qui évidemment appellent une BD immédiatement. On se dit ça va finir en planche. Oui, bien sûr. Bah à chaque fois que c'est toutes les histoires en fait où il y a à la fois c'est visuel et où il se passe où il y a une chute. Parfois la vie fait que il se passe une histoire où il y a une chute. On se dit, alors là, je vais leur raconter, c'est incroyable. Voilà, donc oui, bien sûr, il y a des instants de bande dessinée. Après, il y a des instants où on va en faire des instants de bande dessinée qui n'étaient pas forcément parce qu'on va réussir à rajouter une chute quelque part. Mais oui, bah, la vie est un peu une bande dessinée parfois. Mais voilà, en tout cas, l'anonymisation, c'est vrai que c'est quand même quelque chose aussi de hyper agréable en BD parce que c'est tout de suite de la réadaptation, finalement, la BD. Donc, enfin, moi, avec mon dessin, on reconnaît assez rarement les personnages de toute façon.
Non, avec le mien aussi, j'en souffre.
mais c'est vrai que, par exemple, dans les gens que j'interviewe dans la jungle de Calais, aucun nom n'est vrai. En fait, j'ai changé les noms de tout le monde. C'est-à-dire et dans les personnes qui sont concernées par la psychiatrie, que j'ai pu interroger aussi, j'ai changé le nom, je change le visage, je fais en sorte que les personnes, il y a que les gens qui connaissent l'histoire, qui pourront savoir de qui il s'agit. Et le plus où je l'ai, enfin là où je l'ai fait le plus et où c'était le plus nécessaire, c'était quand j'ai fait mon enquête sur la psychiatrie à travers mes parents et où on parle vraiment de grands manquements, enfin de grands manques d'humanité, voire de malversations, voire de choses illégales. J'ai changé les visages visage, les noms, on peut pas reconnaître les gens, parce qu'à un moment donné, on n'est pas là non plus, on n'est pas la justice, quoi, on n'est pas la police, et puis on n'est pas à l'abri de se prendre un retour aussi de bâton. Enfin, moi, l'idée, c'est plus de dénoncer des pratiques que de dénoncer des personnes. Et la BD, après, elle peut se poser en dénonciatrice, mais c'est pas l'idée, quoi. Voilà, là, cette personne-là, évidemment, elle a pas cette tête-là, et elle s'appelle Mouna dans l'histoire, mais en fait c'est pas son nom, mais elle se reconnaît, les gens qui la connaissent la reconnaissent, mais ça suffit. Après il y a des gens qui ont droit aussi à l'anonymat, enfin, c'est parce qu'une BD malgré tout ça reste, et quelqu'un est marqué après toute sa vie, donc en général les choses négatives, moi quand les gens commettent des actes négatifs ou qui en tout cas sont à leur détriment, je mets jamais leur nom, voilà, parce que je prétends pas.
Cette planche là est un bon exemple de ça, c'est à dire que la mise à distance que procure le dessin en plus qui n'est pas un dessin réaliste. Le tien n'est pas un dessin réaliste, le mien un peu plus, mais guère plus. Cette mise à distance-là, elle est précieuse parce qu'elle revient à la subjectivité dont on parlait au début. Et puis, elle n'empêche pas la proximité. C'est assez paradoxal. C'est une mise à distance formelle, mais qui, parce que la bande dessinée est quelque chose de tactile, de modeste, permet quand même une proximité de sujet. Et moi, c'est un truc vraiment très précieux de la bande dessinée que je continue à explorer, que je n'ai pas fini d'explorer. Ça semble paradoxal, et c'est en même temps une des vertus cardinales de la bande dessinée, me semble-t-il.
Et puis une sensibilité aussi dans l'approche sur des sujets comme la psychiatrie, où on est... Où on cherche des aspérités, où on cherche de la finesse dans la manière d'aborder les choses. La bande dessinée permet ça.
Oui, parce que elle adoucit les angles, hein, quand même, l'arrondi des angles. Et elle permet d'aborder les sujets avec plus de légèreté. Enfin, moi, de toute façon, j'ai un dessin qui est parti, parce qu'au départ, je faisais de la jeunesse, donc j'ai un dessin qui restait toujours un petit peu jeunesse, donc évidemment, qui allège de fait des propos qui peuvent être hyper violents parfois, quoi. Je pense qu'avec un autre dessin, ça serait insoutenable, et avec le mien, ça passe. Parce qu'il y a aussi une économie de détail qui fait que... Enfin, surtout dans ces planches-là, qui sont quand même assez bavardes. Parce qu'elle a aussi... Il y a aussi un sens, c'est que la personne qui m'a raconté l'histoire était dans un monologue intérieur permanent. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de textes. Parce qu'elle est dans son... Elle le raconte très bien, et ça, c'était hyper intéressant. Une personne qui raconte avec lucidité des moments où elle n'était absolument pas lucide. Et donc, elle écrit des poèmes tout le temps. Donc, c'est des poèmes que moi, je me suis permise de réutiliser mot pour mot, et dans lesquels elle était, qu'elle connaît par cœur, parce qu'elle les a répétés des centaines de fois. Donc oui, ça. Quand quelqu'un se confie à nous, ça nous permet bizarrement d'arriver vraiment à capter. Parfois, on a la chance de pouvoir capter l'essence de la personne. Et d'ailleurs, quand elle se relie, elle dit « Ah, mais c'est exactement ça, c'est exactement moi ». Et quand on arrive à ça, il y a un côté qui est hyper plaisant quand on arrive à capter qui est la personne et qu'elle se sente respectée dans son propos et qu'elle se reconnaisse dedans. Et même que souvent, les gens, en fait, ils se sentent sur ces gens-là. Moi, je me suis pris, je sais pas pourquoi, je me suis prise comme un espèce de but dans la vie aussi parfois de donner la parole, d'être le porte-voix de gens qui n'ont pas la parole. Notamment ces personnes-là, elles n'ont pas la parole, personne ne les écoute et même les infirmiers n'ont pas tellement la parole, mais alors eux, c'est encore pire. Et du coup, ces gens, quand ils se voient, qu'ils sont entendus, écoutés, qu'il y a plein de gens qui les ont lus, parce que c'était sur le blog du Monde à un moment, et ça leur fait du bien, quoi, d'avoir un recul sur eux-mêmes. Et je pense que c'est quelque chose qui peut faire du bien à beaucoup de gens, d'un coup, d'exister à travers, même à travers une bande dessinée qui n'est pas non plus... mais je sais pas si vous avez eu ça, mais les gens parfois sont touchés en fait d'apparaître dans des récits, parce qu'on les écoute jamais, quoi.
Et puis de se voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre et d'aller toucher ce réel de plus près, c'est vrai que c'est une bonne.
Oui. Après, parfois, les gens souvent me disent tiens, tu m'as dessiné hyper moche. Enfin, les gens sont jamais très contents au niveau graphique. Mais par contre, ils se. Ouais.
Mais... Si vous voulez en parler tous les deux.
Non, moi j'ai le souvenir dans Cher. Enfin, tu penses à la même chose que moi, je vois bien. Dans Cher Pays, notre enfance, on a interviewé un élu de la République qui nous a raconté des choses très intéressantes que j'ai retranscrites. En général, moi je ne dessine pas sur place. On l'a interrogé tous les deux avec Benoît dans son bureau. Et puis on a fait des photos. Moi, je fais des photos des lieux, comme je vous disais tout à l'heure, de lui un peu, pour avoir de quoi le dessiner. Et puis voilà, avec Benoît, on se met d'accord sur ce qu'on garde de ce qu'il nous a raconté. Je le mets en scène, je dessine les pages, je lui envoie les pages. Et il nous fait dire par son secrétaire que sur le fond, il n'y a pas de problème. En gros, on a dit, enfin, il règle deux, trois petits détails, mais enfin, sur le fond, il est OK. Par contre, il y a un gros problème. Je l'ai dessiné totalement échevelé. Et il dit, mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Je ne suis pas comme ça. Et alors, je re-regarde mes photos. Je ne sais pas s'il était venu à vélo ou s'il y avait eu du vent. Enfin, en tout cas, il était échevelé sur mes photos, donc je l'ai dessiné échevelé. Mais c'était pour lui, et c'est amusant, mais on peut. Pour lui, c'était un cas de refus. C'est-à-dire, il dit, je ne veux pas paraître dessiné comme ça. Vous m'avez mal dessiné, en gros. Et donc, comme son témoignage vous semblait intéressant, ben, j'ai passé 2 ou 3 jours à faire le coiffeur sur mes, sur mes pages, où je lui ai relissé ses cheveux sur son crâne. Je n'ai pas changé le texte, je lui ai renvoyé, puis il a donné son accord pour que ce soit publié comme ça. C'est son image. Et moi, j'ai fait le coiffeur pendant 3 jours et je me suis dit, je fais un drôle de job.
Comme l'a dit Lisa Mandel, ça reste après.
Oui, mais nous, ça nous arrivait exactement la même chose dans Saussure-Hamin. À un moment donné, on a une autrice qui a illustré donc La petite mosquée dans la cité, donc un livre sur une mosquée en banlieue parisienne. Et en fait, elle a dessiné les gens, je ne sais pas ce qui lui a pris, hein, parce qu'on a tous. Elle a dessiné tout le monde blond. Blond, et puis alors les gens ils avaient des coupes, on aurait dit des jeunes mecs blonds, tout le monde, et alors on lui a dit mais tu sais c'est quand même une mosquée, alors il y a des blonds, hein, mais globalement quand même les gens sont un peu méditerranéens, et donc elle a passé des heures à remettre des cheveux noirs à peu près tout le monde, et je sais pas pourquoi elle avait, bon c'était, mais voilà, donc c'était un peu, elle a recoiffé tout le monde parce que ça n'avait plus aucune crédibilité, on serait cru en Norvège avec des, donc voilà c'est drôle, mais aussi je vais juste dire quelque chose là-dessus aussi, c'est que parfois, moi je trouve que parfois justement en faisant ça, on peut aussi faire des erreurs journalistiques. Je sais que nous, à un moment donné, avec Yasmine, on a fait une erreur. On a raconté une histoire qu'on n'avait pas vue directement. C'est-à-dire qu'un jour, on arrive à la jungle de Calais quand il y a eu le démantèlement de la jungle. Ils ont mis des bus et les gens devaient choisir une région. En plus, alors ils ne savaient pas du tout. En plus, les régions avaient changé. Donc même les gens ne savaient pas leur dire quelle région c'était. Genre les Hauts-de-France, ça venait de changer. Les gens faisaient. Alors ils ne savaient pas où aller. Ils disaient bon, ben, je vais aux Hauts-de-France parce que je connais quelqu'un, je sais pas quoi. Et ils partaient pour des cadas, et il y avait une nana à un moment donné, ils étaient pressés, il y a une nana de je sais plus quel organisme, je préfère pas m'engager sur un nom, qui commence à les trier parce qu'il fallait se dépêcher, et elle les trie au faciès et elle décide qui est mineur et qui n'est pas mineur, et ça changeait tout parce qu'un mineur isolé n'est pas du tout traité de la même manière qu'un majeur, et donc elle prenait les gens, elle faisait non toi t'es majeur, toi t'es mineur, le tri quoi, et en fait ça a choqué tous les bénévoles, et donc on nous rapporte cette histoire. Ouais, il y a une nana, elle fait une espèce de nana un peu bourge de Paris, comme ça, elle fait toi là, toi là. Et donc, je dessine une nana un peu bourge de Paris, comme ça, qui fait toi à droite, toi à gauche. Des mois plus tard, il y a Lyon BD, donc je suis à Lyon BD, il y a une petite jeune fille qui vient me voir, qui fait oh, j'ai lu votre livre, j'ai beaucoup aimé, mais en fait, vous savez, la personne qui triait comme ça, bah, en fait, c'était moi. Et la fille, en fait, elle avait été, elle a dit oui, mais ça s'est pas passé exactement comme ça. Et elle était hyper mal à l'aise de me le dire, mais moi je me suis sentie hyper mal à l'aise parce que je me suis dit tiens je le referai plus ça par exemple, de raconter quelque chose que une chose à laquelle je n'ai pas assisté moi-même, surtout quand c'est virulent, parce que bah, même si ça s'est vraiment passé comme ça, bah, après il y a une vraie personne qui elle a dû être ultra blessée, après j'ai pas dit son nom hein, parce que bon, mais elle a dû être ultra blessée d'avoir cette image là et sûrement qu'elle l'a pas fait d'une manière aussi froide et mécanique, mais je me suis dit tiens voilà, c'est les petits risques des fois de la BD quoi, on est pris justement par ah ça fait une bonne BD, puis on le fait au détriment d'une vraisemblance et aussi au détriment des personnes qui se retrouvent un peu les victimes de notre, voilà, notre envie d'être un peu sensationnel.
Ouais, on est sur une ligne de crête entre le récit et le réel. Y a-t-il parmi vous des questions ? Reste-t-il du temps pour les questions ? Je crois un petit peu.
Oui, il y a du temps pour les questions.
Merci bien, bonjour. Je voulais savoir auprès de M. Davodeau et de M. Colomba quelle était justement la part de relecture que vous accordiez. Tout à l'heure, vous disiez sinon on n'avait pas son autorisation, donc ça veut dire que si la personne n'était pas d'accord, vous ne publiez pas. Est-ce que vous acceptiez les modifications jusqu'où ? Puis une deuxième question pour eux, c'est est-ce qu'après la publication de leur livre sur ces histoires, j'imagine que ça les a fait connaître peut-être d'un plus large public que les livres plus sérieux qu'il y avait pu y avoir avant. Est-ce que ça a réouvert des enquêtes ? Est-ce que ça a permis une évolution sur certains dossiers, sur le fond en tous les cas, voilà, de connaître tous ces témoignages ?
Alors pour le deuxième point, il y a dans ce qu'on raconte sur l'affaire Boulin, un témoin que Benoît a retrouvé, qui est cité tout à la fin du récit, qui a contribué à la, sinon à la réouverture, en tout cas à la non-fermeture du dossier sur l'affaire Boulin. C'est quelque chose qui est en cours. Hein, et puis, concernant votre première question...
méthode,
oui, alors la méthode, en gros, assez simplement, moi j'aime bien faire relire les pages, au moins, enfin comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour que la personne ne soit pas surprise en découvrant ça imprimé, relié dans un livre diffusé à des milliers d'exemplaires, ça me semble la moindre des choses. Et puis, plus prosaïquement, aussi pour qu'ils puissent me signaler des erreurs que j'ai ou qu'on a fait, en l'occurrence, tous les deux, des erreurs factuelles de date, de nom, de je ne sais pas quoi. Ça peut arriver. Et puis, avoir le ressenti de la personne est intéressant. Je ne lui dis pas, vous pourrez tout changer, parce que sinon, il prend la main sur le livre, en tout cas sur la séquence. Mais en tout cas, je parle de mes livres personnels, hein, mais sur Cher pays de notre enfance, on a un exemple aussi comme ça. C'est intéressant de voir ce que la personne en pense. Il m'est arrivé, moi, une fois dans Rural, justement, de ne pas trouver ce terrain d'entente avec un témoin qui me semblait pourtant intéressant, et je n'ai pas mis son témoignage. C'est-à-dire qu'il y a des 5-6 pages qui ne sont pas dans le livre, parce qu'il a senti que... Enfin, la personne en question a senti... Et la façon dont je l'ai interviewé, dont j'ai rendu son témoignage, ne lui convenait pas. Et je n'ai pas eu l'impression de trahir sa parole. Mais voilà, on n'a pas trouvé de terrain d'entente, donc on a évacué. Dans Cher pays, on a eu un cas un peu particulier comme ça, où on rencontre... donc ce sont des gens souvent âgés qu'on rencontre, puisqu'on parle d'événements qui se passent dans les années 60, 70, 80. Donc les gens qui étaient en fonction à l'époque sont maintenant retraités. On rencontre l'ancien flic qui à Lyon, dans les années 70, s'occupait de cette ville qu'on appelait Chicago-sur-Rhône, qui était une ville où la violence était très forte. Et on le questionne sur sa relation avec Edmond Vidal, le gars dont je vous parlais tout à l'heure, qui était le chef du gang des Lyonnais. Et on sent que c'est à vif. Le gars, il a 80 balais maintenant, mais les décennies qui ont passé n'ont rien cautérisé. Et il nous dit, entre lui et moi, c'est une haine à mort. Magnifique phrase que je note, que tu enregistres, et que nous gardons comme un petit trésor. Et on continue à discuter. Moi, on décide évidemment de retenir cette phrase de la personne en question dans notre séquence. Je dessine la séquence avec cette phrase. On lui envoie les pages comme on le fait à chaque fois. Et lui nous renvoie un courrier extrêmement détaillé en disant « Je souhaite modifier des choses dans mon témoignage. » Et il réécrit tout en rajoutant 90% d'eau tiède dans ses propos, en gros. Et donc, « Il me voue une haine à mort » devient « Entre lui et moi régner une certaine inimitié. » Par exemple. Qu'est-ce qu'on fait ? On garde la première, on garde la deuxième. Si on garde la deuxième, le témoignage perd un peu de son intérêt, parce que ce qu'il nous a dit dans la première, il nous l'a vraiment dit. Et ben voilà, à partir du moment où on se dit qu'est-ce qu'on fait, on le met dans le livre. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait, on le met. Je nous dessine tous les deux dans le train, je lui montre à Benoît l'enveloppe, que c'est moi qui l'ai reçue, envoyée par cet ancien gendarme, je lui donne à Benoît, je lui dis voilà, on est bien emmerdé, qu'est-ce qu'on fait avec ces deux versions ? Et ben on publie
les deux.
On garde les deux, et on laisse le lecteur choisir, et ça fait partie aussi du jeu de la bande dessinée. Et c'est comme ça qu'on procède, c'est à tâtons à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, on ne sait pas trop ce que la personne va en penser, on n'a pas envie non plus de capituler, on n'a pas envie non plus de. Enfin, on cherche une espèce de passage entre les bornes comme ça, c'est pas évident. Dans ce genre de situation, il n'y a pas de solution absolument satisfaisante, mais. Ça fait partie du jeu, il faut faire avec ce qui nous arrive. Et c'est pour ça que j'adore faire ces livres-là, entre autres.
Et encore une fois, si on le fait, on ne le fait pas pour se faire plaisir, même du coup, ça peut produire un effet comique, mais on le fait parce que d'abord, on résout une espèce de cas de conscience, en fait, en disant bah, qu'est-ce qu'on fait ? Et du coup, ça dit quelque chose aussi sur l'état d'esprit de cette personne. Et du coup, c'est une information pour le lecteur. Et donc, c'est pour ça qu'on le met.
Est-ce qu'il a réagi, après coup, en voyant les deux versions publiées ? Pas de nouvelles ?
Non, on n'a pas eu de deuxième réaction. Non.
Bonsoir. C'est pas tellement une question, c'était plutôt une remarque que je trouvais intéressante. Tout d'abord, je voulais un peu me présenter parce que je trouve que ça fait un peu de sens. Je suis étudiante et en parallèle, je fais de la bande dessinée et j'écris pour un journal jeune. Et j'aimerais beaucoup être journaliste et auteur de BD en parallèle. Donc la conférence... tombe à pic.
Vous êtes la Joe Sacco française.
Voilà, c'est ça. Futur. Et je me suis fait la remarque que j'ai l'impression que la BD est d'autant plus importante pour le journalisme parce que j'ai l'impression qu'on retrouve un temps qu'on a un peu perdu avec le numérique puisque maintenant, d'autant plus pour les jeunes de mon âge, les articles, on les lit de plus en plus vite et on feuillette, on fait un peu du zapping. Et j'ai l'impression qu'avec justement tous ces reportages, toutes ces enquêtes BD, on retrouve un temps de lecture où on est nécessairement plongé dedans et on est obligé de prendre du temps pour lire de la BD, pour comprendre. C'est pas tellement ce qu'on peut avoir avec d'autres formes de reportages. Je pense avec le reportage télé où des fois on peut faire autre chose et on le regarde sans le regarder. Alors qu'avec la BD, il y a vraiment ce temps qui est nécessaire et qu'on retrouve et qui nous permet mieux de comprendre et d'analyser les faits et l'enquête.
Oui, je crois qu'il y a un contrat en fait, qui se passe entre l'auteur ou les auteurs et le lecteur ou la lectrice. C'est un contrat d'implication. C'est-à-dire que nous, on s'implique, on y passe des mois, des années, et la lecture de ces livres-là nécessite aussi une implication. C'est-à-dire qu'il faut s'y plonger. C'est souvent des livres assez longs, parfois assez denses, avec beaucoup de personnages, en l'occurrence, pour Cher Pays. Donc, ce sont des lectures exigeantes, dirait-on, mais qui peuvent aussi payer en retour par des informations qu'on apprend. Et effectivement, il y a cette immersion dans la lecture qui moi, ne me semble pas un problème. J'adore, en tant que lecteur, du coup, pouvoir ou devoir m'immerger dans des livres longs et denses. Mais il faut trouver des lecteurs qui acceptent ça.
Et nous, à la Revue Dessinée, on a le temps pour tamis. En fait, ça permet de séparer, de faire le tri entre des sujets qui seront toujours valables dans 6 mois, 9 mois, 1 an, et même parfois plus. Et ça nous donne une relation plus apaisée à l'actualité. Parce que ne serait-ce que le fait de se poser cette question-là, de est-ce que ce sera encore valable dans 6 mois, dans 9 mois, ça, en fait, implicitement, c'est se dire est-ce que c'est vraiment important. Et ça nous permet de sortir la tête du bouillon du flux d'infos continu qui se chassent les unes les autres et d'avoir une relation peut-être un peu plus profonde et sereine à l'information. Le temps aussi de la bande dessinée, ça permet de redonner du temps au journalisme, dans le sens où si de toute façon il faut plusieurs mois pour dessiner, et ben prenons plusieurs mois en amont pour voir une situation évoluer. Et c'est ça qui est assez génial en tant que journaliste et quand on fait du reportage en bande dessinée, en binôme avec des auteurs, c'est que on se dit... On revient, ce que Lisa Mandel et Yasmine Boaga ont fait, c'est... Revenir sur le terrain, ça permet de nouer des relations qui sont tout à fait différentes entre passer une après-midi, récolter 2 citations et passer une après-midi, récolter 2 citations et revenir le lendemain ou revenir la semaine suivante ou revenir le mois suivant. Les gens comprennent qu'on s'intéresse vraiment à eux, que c'est pas juste leur phrase qui nous est utile et ça libère d'autres paroles que celles qu'on peut récolter en très peu de temps, la phrase choc, le petit fait saillant. On va aller au-delà. Donc oui,
Vous avez parfaitement résumé les choses pour moi, et c'est vrai que cette question du temps, elle est fondamentale. On l'a esquissé au début de la conversation, mais c'est pour ça qu'il y a, à mon avis, de plus en plus de journalistes qui veulent se tourner vers ce type de journalisme en bande dessinée. Et je crois que c'était Hugo Pratt, le papa de Corto Maltese, qui disait le dessin, c'est 8 secondes d'intuition et 8 heures de travail. Bah, le journaliste, c'est un peu ça aussi, même beaucoup plus que 8 heures. Mais du coup, je t'ai toujours dit, Étienne, que moi, je voyais le journaliste comme une forme d'artisanat. Pour moi, c'est un mot noble. Le mot d'artisanat, c'est-à-dire essayer de bien faire son travail, quel que soit le travail qu'on fait. Et c'est pas un truc qu'on fait à la chaîne comme ça. Et puis, de l'autre côté, du point de vue des lecteurs ou des citoyens, il y a cette envie d'être bien informé. Et du coup, que ça soit sur les pesticides, le secteur financier, la situation de l'hôpital, le nucléaire, on a envie d'avoir de bonnes informations, des informations de qualité. Donc pour ça, il faut du temps. Et c'est vrai que dans le système médiatique tel qu'il fonctionne aujourd'hui, bah, il y a de moins en moins d'espace où on peut vraiment travailler dans des bonnes conditions. Voilà, moi, c'est pas un hasard si je travaille dans l'audiovisuel public, à la radio en l'occurrence. Mais cet espace, il se rétrécit de plus en plus. Il faut pas être naïf.
Qu'il y a d'autres questions parmi vous. Alors, si on est arrivé au bout du temps imparti, je pense même qu'on l'a un petit peu dépassé.
Non, parfait. Je t'aurais presque demandé de nous... J'en profite, hein, puisque Amélie est quand même rédactrice en chef de la Revue Dessinée, donc il mêle quand même bande dessinée et actualité. Et justement, peut-être de nous parler de ton travail un tout petit peu de rédactrice en chef, puisque tu as le côté dessin et le côté journalisme, et comment... parce que c'est une problématique particulière. Alors, si ça vous... Enfin, profitons-en, ils sont là. Donc,
Alors, la revue dessinée, c'est donc une publication trimestrielle en librairie qui fait du documentaire, du reportage et de l'enquête en bande dessinée sur des formats un peu plus courts que ceux dont on a parlé jusqu'à présent, plutôt une trentaine de pages. Et mon rôle à la revue dessinée, c'est d'être celle qui arrange les mariages, qui crée les mariages forcés. Un petit peu parfois, mais non, on essaye de faire en sorte que les visions du monde convergent et du coup de choisir les sujets et puis de choisir d'accompagner ces binômes qu'on va former de journalistes et de dessinateurs sur des sujets comme la tarification à l'acte à l'hôpital, comment le système de financement de nos hôpitaux les ont rendus fous et font souffrir le personnel, sur le nucléaire, sur la transition énergétique en Allemagne. On va sur des sujets très très variés, parfois complexes, parfois qu'on n'aurait pas forcément envie de lire en article écrit, notamment c'est des exemples qu'on cite souvent, mais les partenariats publics-privés ou les emprunts toxiques, c'est des sujets économiques, ardus. Et puis d'un coup, la bande dessinée vient nous donner des petits Lego, des petites briques qui nous permettent de rendre les choses très simples assez facilement. Et nous, on est là pour faire en sorte que cette rencontre entre deux métiers que sont le journalisme et la bande dessinée se passe au mieux, que l'équilibre entre la rigueur des faits et la créativité soit respecté, qu'il n'y ait pas une personne qui prenne l'ascendant sur l'autre, l'équilibre subtil dont parlait Lisa Mandel tout à l'heure. Et puis... Et puis toujours dans une approche critique, d'avoir un traitement de l'information qui soit problématisé, qui soit souvent de l'enquête, pour dépasser justement le flux et le côté news, l'actu chaude. Et ça permet aussi d'aller comprendre des territoires où des journalistes ne mettraient pas forcément les pieds avec des caméras et des appareils photo. Moi, j'ai travaillé sur la prostitution pour la revue dessinée en tant que journaliste en binôme avec un auteur de bande dessinée. Et ça nous a permis de raconter la condition des jeunes prostituées nigérianes, comme on n'aurait pas pu le faire autrement, parce que d'une part, caméra, c'était impossible. Et puis, on a pu à la fois faire leur portrait en faisant marcher le copy-top du coin, parce qu'on faisait des photocopies des dessins et on leur donnait au fur et à mesure. Et à la fois de dézoomer et de retracer le trajet depuis le Nigeria jusqu'à Paris avec les réseaux, les rites et puis les mamas qui tiennent les colocations de jeunes filles. Ça nous vraiment, la bande dessinée nous permet d'avoir ces deux niveaux à la fois collés à nos personnages, et puis on dézoome et puis on les replace dans un contexte plus large. Ça permet de comprendre pourquoi cette histoire singulière, elle en dit finalement beaucoup plus qu'elle-même, en quoi ça raconte des réalités. Donc voilà, et puis en fait c'est un laboratoire, la revue dessinée, où on essaye de raconter, de faire en sorte que la bande dessinée soit témoin de son temps à travers des explorations à la fois de styles graphiques très différents, de manières de faire du journalisme très différentes, des gens qui font beaucoup de terrain, d'autres qui vont éplucher des rapports et se plonger dans des archives, et on fait en sorte que ce soit le plus intéressant possible pour les lecteurs. Et puis de la revue dessinée sont nés plusieurs projets. L'histoire dessinée de la France dont parlait Étienne Davodeau tout à l'heure. Donc c'est raconter l'histoire de France en 20 albums jusqu'en 2020, avec à chaque fois le mariage d'un historien et d'un auteur de bande dessinée, de manière chronologique, mais en essayant de déconstruire les images. Et puis Topo, qui est la petite sœur de la revue dessinée. On se dit que puisque la bande dessinée a cette capacité formidable à la fois de faire rire, de d'émouvoir, de simplifier, de rendre abordables des sujets complexes, pourquoi ne pas utiliser ce langage-là pour s'adresser aux adolescents, parce qu'il y a un vrai défi de comment on parle, comment on raconte l'actualité aux ados, comment on fait en sorte qu'ils s'informent différemment que sur YouTube et avec des sources plus ou moins vérifiées, comment leur délivrer une information sérieuse, crédible, dans laquelle on peut avoir foi, en essayant de les attirer quand même. Et Topo relève ce défi-là en leur parlant de sujets qui leur parlent. Et puis voilà, les livres d'enquête comme Sarkozy, Kadhafi, Des billets et des bombes, qui est le premier gros livre d'enquête qu'on est en train de sortir. Donc voilà, la revue dessinée, c'est devenu une marmite à projets autour de la bande dessinée du réel.
Bien,
s'il y a des questions sur tout ça.
Sinon, il me revient de remercier très chaleureusement Lisa Mandel, Amélie Mouget, Étienne Davodeau et Benoît Colomba, voilà, pour cette passionnante table ronde. Je précise, bon, on va faire un petit peu d'article pour nous, tous les livres sont à la bibliothèque. La revue dessinée est à la bibliothèque. Je précise aussi que la table ronde de ce soir a été enregistrée grâce à nos techniciens que je remercie. Elle va venir enrichir les archives de la bibliothèque. Donc, par exemple, rejoindre des tables rondes de Sylvain Venner qu'on avait reçues ici avec d'autres historiens. Et je vous rappelle que c'était la dernière table ronde autour de l'exposition Riyad Satouf qui ferme donc le 11 mars. Donc, je vous invite à y aller aussi. Et voilà, encore merci à vous quatre pour cette formidable table ronde. Bonne soirée à tous.
Merci.